Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. On revient à l'actualité avec les podcasts de la rédac, cette semaine numéro 341. Avec moi aujourd'hui, nous avons Romain, nous avons Julo et nous avons Traz.
Hello.
Au sommaire, immédiatement, la PS4. La PS4, est-ce qu'elle a déjà gagné? Est-ce que les déclarations de Ed Fries, ancien de chez Xbox, ou de John Ritchie Tiello de chez Unity, marquent un petit peu une nouvelle fois un désamour envers la Xbox One? Les chiffres UK, les chiffres de la Chine, les chiffres de l'Allemagne, les éditeurs qui lâchent peu à peu la Xbox One, est-ce que la PS4 a déjà gagné? On répond tout à l'heure. La PS4, qui ne sera pas à la Gamescom, figurez-vous qu'elle a préféré réserver sa nouvelle conférence pour la Paris Games Week. On en parle évidemment tout à l'heure. Julien n'est pas là, mais je suis sûr qu'il aurait aimé en parler avec toi, Julo.
On s'est échangé quelques textos.
Pas du tout.
Ouais, effectivement. Et pour finir, nous finirons évidemment avec Project Cars, qui est sorti il y a quelques jours, que Traz a testé en long, en large, en travers. On vous dit tout à l'heure si c'est le meilleur jeu de caisse de tous les temps. Mais avant ça, je vais me tourner vers Julo, évidemment.
Oui,
de manière tout à fait.
On commence par le feu d'artifice.
C'est vrai, tu penses? Eh bien oui, parce que dans la vie, il y a des wins. Et Julo, cette semaine, il y a quelque chose qui nous a fait très plaisir à voir, surtout après le désastre qui a été
Du 25 avril dernier. Vous savez, ce grand tremblement de terre au Népal, 7,8 sur l'échelle de Richter, qui a fait énormément de morts, beaucoup de tristesse et de désolation dans ce pays. Et donc Bungie, le développeur donc de Destiny, a décidé de d'agir et propose en fait depuis donc quelques jours maintenant et jusqu'au 24 mai prochain de réserver son t-shirt pour aider le Népal. Alors c'est un vaste programme, Guardians to the Aid of Nepal.
Guardians.
Donc Guardians, c'est vrai. The Last Guardian.
Personne veut la faire, hein, Guardian.
Non, c'est vrai, on a du mal avec ça. Après tout, je suis français, je parle mal l'anglais comme tous les Français. Donc jusqu'ici, tout va bien. Guardians to the Aid of Nepal, donc c'est un programme. Vous réservez un t-shirt pour le modeste prix de 24,99€, 25 euros.
Ça, c'est cher.
Non, dollars, pardon, ça fait donc 22 euros.
J'aime beaucoup tes filles, Jules.
Ouais, elles sont mal faites. Hein. Elles sont faites à l'arrache, j'avoue.
On n'arrive pas à lire.
Le truc, c'est que donc tous les bénéfices seront reversés évidemment aux associations qui œuvrent sur place pour aider la population, reconstruire des maisons, aider les gens qui sont dans la panade. Pour rien gâcher, donc si vous êtes fan de Destiny, vous participez donc à une action caritative et vous gagnez également pour le jeu un emblème et un shader exclusif qui seront donc réservés aux joueurs qui auront participé à cet élan de solidarité. Donc
bonne action.
C'est le win de la semaine, la bonne action de la semaine. Voilà.
Très bien. Mais
si vous êtes fan de Destiny, ça se passe sur le Bungie Store pour réserver votre t-shirt.
Qui seront envoyés dans le courant du mois de juin.
Et ça sera, vous recevrez votre t-shirt au mois de juin.
Et le fail, c'est quoi?
Attends, parce que... Non mais dis donc, tu ne respectes pas les jingles.
Non, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour foutre la merde, tu comprends la merde.
Eh bien, tu sais quoi, le fail, c'est what? Non, je plaisante. Le fail, Julo, eh bien, c'est une démo. Un playable
Pity.
Teaser qu'on a beaucoup apprécié ici et c'est fini.
Silent Hills Pity, c'est fini. Donc alors c'est un fail qui dure depuis quelques semaines, puisque donc Silent Hills, dont Pity était le teaser jouable, est mort depuis depuis quelques semaines maintenant.
Ah moi j'étais en vacances à ce moment-là.
Ouais.
J'ai rien compris.
Bah Konami
devant la plage.
Konami a annulé le jeu, etc. Et donc fort logiquement, on se demandait ce qu'allait devenir cette démo. Et bien elle arrive à la fin de sa période d'exploitation, comme a dit Konami. Et donc en gros depuis la semaine dernière, donc le 29 avril très exactement, on ne peut plus la télécharger sur le PlayStation Store. Si vous l'aviez téléchargée déjà, elle reste dans votre PS4 ad vitam, tout du moins sauf si vous avez un problème de disque dur qui vous obligerait par exemple à réinstaller,
à formater, sauvegarder-la ailleurs vite.
Et à ce moment-là, vous ne pourrez plus la télécharger, même si vous l'aviez déjà téléchargée.
Parce qu'il y a eu quelques jours de flottement où elle n'était plus
téléchargeable par les nouveaux utilisateurs.
Voilà, c'est ça.
Mais ceux qui l'avaient eu une fois et qui voulaient la retélécharger pouvaient le faire. Maintenant, c'est fini même pour eux. Quoi.
Voilà.
Si vous ne l'avez pas sur votre PS4, c'est mort.
Donc le fail de Silent Hill, c'est terminé.
Je peux revendre ma console avec pitié.
Il y a des gens
qui le font.
Les gens des PS4, on est sur Terre, des humains.
Oh là 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 là, c'est bon. Je vais pouvoir quitter Gameblog dans pas très longtemps, les mecs.
Salut. Bah écoute, salut.
En tout cas, nous, ça nous rend très triste de savoir, un, que le projet est annulé, et deux, que Pity, plus personne pourra le découvrir, alors que c'était quand même peut-être une des plus belles choses qu'on ait vues en 2014.
C'était audacieux, c'était réussi, et ça changeait vraiment la conception qu'on a du
Survival Horror. Bon, après, petit déçoir quand même, on sait pas exactement ce qui va devenir de Hideo Kojima après la sortie du prochain Metal Gear.
Il y a du Norman Reedus.
Mais voilà, il est très fort probable qu'il crée son propre studio éventuellement, et que Silent Hills renaisse, enfin tout du moins le travail qu'il avait, les idées qu'il avait sur Silent Hills puissent renaître dans un autre projet.
Moi je crois qu'il va faire il va faire The Lost Guardian avec...
Guardian.
Moi j'y crois pas du tout, parce que le projet Silent Hills, je pense qu'il est encore bien entouré des droits et des avocats de Konami. Et je pense que si Kojima et Guillermo del Toro, s'il leur venait l'idée de faire quelque chose d'équivalent hors Konami, ils se prendraient tout de suite un procès pour contrefaçon ou non-respect du droit d'auteur.
Ou pas, hein, il suffit de quelques ajustements.
Oui, c'était les droits de l'homme, tu connais.
Bah après, il faudrait bien le modifier. Mais genre une copie conforme avec un autre nom, j'y crois pas.
Bon, très bien. En tout cas, ça nous met l'alarme à l'œil à tous. Adieu, Pity. Romain. C'est l'heure de la fête, c'est l'heure de la joie, c'est l'heure du chiffre de la semaine.
Chiffre de la semaine.
Et quel est-il, oui, cher Plumeau, ce chiffre, c'est 6.
6 quoi ?
666. 6 quoi ? Eh bien, 6 heures. 6 heures. Pourquoi ? Pour atteindre le million de dollars récupérés sur Kickstarter.
Mais c'est qui a fait ça ? Mais
qui a fait ça ? C'est Ukulele. C'est
Ukulele,
oui, pardon. C'est la suite spirituelle qui n'a spirituelle finalement que le nom de Banjo et Kazooie. Les anciens de Rare se sont réunis pour donner une suite à Banjo Kazooie. Rare n'a jamais voulu le faire. Enfin, Rare et donc Microsoft. Et
ils ont fait Banjo Kazooie un peu Nuts bizarre, Nutshell Balls, qui était un peu moyen, quoi.
Enfin, je veux dire une vraie suite au Banjo Kazooie original. Et donc ils ont décidé de faire ça hors Microsoft,
hors caméra,
et forcément ils ne peuvent pas utiliser la licence Banjo-Kazooie, donc ils ont lancé leur projet sur Kickstarter, et dans les 6 heures qui ont suivi, ils ont réuni 1 million de dollars. Donc, alors que leur but, si je me souviens bien, c'était 135 000 livres.
135 000
livres. Bien moins, ça a largement dépassé. Donc ils ont pu ajouter plein de nouveaux...
Un niveau à leur appartement.
De nouveaux... ils ont pu ajouter plein d'objectifs supplémentaires, comme par exemple la sortie en simultané sur PC, mais aussi sur PS4, Xbox One et Wii U du jeu, de la coop en local à 2, des modes multi en local jusqu'à 4 joueurs. Là, leur prochain objectif, c'est 1 500 000 livres sterling, et ça leur permettrait d'ajouter une bande originale orchestrale au jeu. Et là, ils en sont à 1 400 000 et quelques. Ils sont juste en dessous des 1 500 000.
Non, mais attends, ils ont fait 10 fois le score qu'ils avaient prévu, quoi.
Ouais, il leur resterait.
C'est colossal.
Il leur reste 36 jours sur Kickstarter.
Ah ouais.
Donc je pense que les 1 500 000 seront atteints très vite. Et après, est-ce qu'ils vont peut-être ajouter encore d'autres objectifs, mais
que je comprenne bien, c'est les développeurs
d'anciens développeurs de Rare qui seront regroupés sous le studio qui s'appelle Playtonic. Voilà. Ça faisait quelques mois qu'ils teasaient ça.
Parce qu'à voir la vidéo qui est en train de tourner, ça peut l'air terrible quand même.
Bah en fait, c'est la première fois que je le vois, moi. C'est un prototype, les mecs.
Et ce qui est marrant, c'est que dans les objectifs.
Je sais pas le perso, je trouve pas extra.
Dans les objectifs sur Kickstarter, il y a un shader façon N64.
Oui.
Donc tu pourras donner un look 64 bits au jeu si tu le souhaites.
Nostalgia.
Oui, pour les nostalgiques. Et ce qui est amusant aussi, c'est que le compositeur des musiques de Banjo-Kazooie, de Viva Pinata, etc.
Parti avec 3 millions de
tweeter. Pendant longtemps, je disais que les gens étaient intéressés par ce type de jeu et on me disait non. Donc genre fuck you, quoi. Tu vois, c'est vrai que pour
atteindre
un tel chiffre sur Kickstarter, ça veut dire qu'effectivement il y a des gens qui sont intéressés par ce type de jeu de plateforme en 3D. Et je pense que dans le lot, il y a quand même beaucoup de nostalgiques de Banjo-Kazooie.
Bah, faudra voir maintenant si le résultat en vaut la peine. C'est pour la fin 2016, hein, de toute manière.
Ouais.
Donc on a encore un petit peu de temps avant de le voir débarquer. Et puis on peut se prêter à rêver que, je sais pas, Shenmue 3 puisse être kickstarté un jour. Il pourrait battre tous ses records.
Le problème, c'est que la licence appartient à Sega, donc faudrait que ça soit un Kickstarter lancé par Sega. Après,
oui,
une grosse
après,
marque comme ça.
Ils font comme eux, ils changent un petit peu le nom, ils appellent ça.
Ah ouais, mais non, moi ça m'intéresse.
Shindur ou un truc comme ça.
Ah non, moi ça m'intéresse pas. Moi, il faut qu'il y ait la licence, il faut que ce soit la même histoire. Une suite spirituelle, j'en ai rien à carrer. Moi,
on se calme là.
La fin des aventures de Ryo Hazuki et pas de Hazuki Mio.
Je donne un scoop, Shenmue 3 ne sortira jamais. Jamais.
C'est vrai, t'en
jamais.
Es sûr?
Sûr.
À vérifier, Traz, à vérifier. En tout cas, ça fait plaisir en ce qui me concerne de voir ce petit jeu. Messieurs, les 5 articles de la semaine, d'après vous, quels sont-ils?
Attention, tambour.
Alors, en 5. Ouais.
Ah, tu veux le faire, hein? Bah vas-y, hein, t'en verras pas, vas-y, tu regardes mes fiches tranquillement.
Non, je te laisse.
Numéro 5.
Elles sont mieux faites que les miennes, hein, tes fiches.
Ouais, ouais, je les fais
un peu moins caca.
Numéro 5, c'est Assassin's Creed Victory, changement de nom et nouvelle image. Alors, au moment où nous enregistrons, nous n'avons encore rien vu, mais normalement, c'est demain, mardi 12 mai,
oui,
que nous en saurons un peu plus sur celui qui devrait en fait s'appeler Assassin's Creed Syndicate. Donc voilà, on va surveiller ça.
Au Royaume-Uni qui fait tiep.
C'est peut-être pour ça que
il
y a eu des voyages, il y a eu un voyage outre-Atlantique la semaine dernière auquel nous n'étions pas conviés.
Oui, ça c'est pas.
On n'est plus conviés.
Nous ne sommes plus conviés, nous ne sommes plus invités. Numéro 4, GTA 5, un mode créer un fusil qui tire des voitures, la vidéo complètement barrée, comme d'habitude. C'est GTA 5, ça vous intéresse, et là en plus, c'est complètement con.
C'est d'une idiotie monumentale.
Mais c'est génial, c'est bien.
Oui, c'est drôle, c'est rigolo. Mais
un peu de délire.
Moi, c'est ce que j'ai mis dans ma news d'ailleurs. Je suis sûr que les mecs de Volition qui font Saints Row, quand ils ont vu cette vidéo, ils se sont dit merde, pourquoi on n'y a pas pensé avant, quoi. Parce que c'est typiquement le genre de choses qu'il y aurait dans un Saints Row.
Numéro 3, Project Cars, notre comparatif PC, PS4, Xbox One. On parle de Project Cars tout à l'heure, donc pas besoin de s'éterniser. Tout comme on ne va pas s'éterniser sur le top de la semaine qui était ces jeux de course qui ont marqué l'histoire
de l'humanité.
Et on ne va pas non plus s'éterniser sur le test de Project Cars, on en parle tout à l'heure.
Mais bon, pour une fois, un test devant un top.
Oui. Mais en même temps, il y a des circonstances.
Ouais, mais bon, quand même.
On enregistre le podcast plus tard.
Oui, mais bon, quand même.
Bon, bref.
On va juste signaler que
ça vous a passionné quand même, Project Cars.
À quelques jours près, si tu n'étais pas parti en vacances, je pense qu'on aurait pu avoir un top 5 une semaine où il y avait 3 trucs DBZ.
J'en doute pas une seconde non plus. DBZ, c'est toujours vainqueur. Mais maintenant, messieurs, nous allons passer au thème de la semaine. Et pour commencer.
D'accord.
On est encore jeunes.
On est encore jeunes.
Et oui, on est encore jeunes. Il a raison, Patrick Sébastien. Et oui.
Mon Dieu.
Tu connais Patrick Sébastien?
Et on va attendre le refrain ou pas pour expliquer exactement ce qui se passe au niveau de ce thème? Eh bien, c'est la PS4, évidemment. Est-ce que la PS4 a déjà gagné? Parce que là, ces derniers temps, tout va dans ce sens.
Mais c'est quoi le rapport?
Mais oui, je comprends pas non plus.
Parce qu'il chante, on a gagné ce soir.
Enfin, vous savez pas, les mecs, merde.
Écoute-moi le refrain.
Je suis pas calé en chanson de Patrick Sébastien, je suis désolé.
Attention,
ça swing, hein.
Ah, il l'a déjà dit en fait.
Ouais, il l'a déjà dit.
Ah, pardon,
bon, ok, tu peux couper.
Bref, on va couper effectivement. On va couper.
T'as l'impression qu'il a une bande musicale qui fait toutes ses chansons par dessus, tu sais.
Bah, c'est la même boîte.
Un rythme sur un clavier, bon, tant pis, tu sais.
Bah, c'est sa boîte à rythme. En tout cas, il l'a réglé sur le truc. Tu regardes là. Tu gardes le rythme, tu fais. Chante les sardines, c'est pareil, c'est le petit bonhomme. Ça tient aussi, c'est parfait.
Petit bonhomme. Bref, tu les connais toutes par cœur, hein, j'ai l'impression.
On a gagné, bah t'es obligé.
C'est
flippant. Hein, ça passe une fois dans ta tête. Bah,
il a passé trop de temps en Italie, la France lui manquait.
La France.
C'est musique de merde. Si vous saviez ce qui tournait là-bas,
c'est vrai.
Ah, je sais que c'est pire
qu'ici. Oh là là, c'est beaucoup pire. Bref, on va revenir à la PS4. Est-ce qu'elle a déjà gagné?
Beaucoup pire qu'ici.
Parce que entre eux, oui, c'est beaucoup pire.
Je l'avais noté, je sais pas.
Ah, vous pouvez la
dire. Je voulais pas enfoncer mon ami.
Ça me perturbe.
Mais vous pensez que la PS4 a gagné la guerre ou pas sinon?
Ben voilà, c'est exactement la question qu'on se pose.
Ben
parce
écoute,
que
on y va tout droit.
Trace qui nous remet dans le chemin.
On y va de plus en plus. On a l'impression, en tout cas, à la lueur des déclarations de ponte du jeu vidéo,
de François Hollande,
de chiffres qui vont dans tous les sens pour dire à la fois que la Xbox One c'est moins bien et que la PS4 c'est mieux, et surtout des éditeurs qui commence à avoir en exclusivité plus de choses sur PS4. Je parlais par exemple de Street Fighter 5 et récemment Far Cry 4 complète édition qui n'arrive pas sur Xbox One mais qui sortira sur PS4 et PC. Messieurs, c'est fini, ça y est, fin du game. Julo.
Et la, si la question c'est est-ce que la Xbox One va réussir à rattraper le son retard sur la PS4,
bah ça va être Fry, en est convaincu, ça va être difficile.
Moi je pense que ça va être oui effectivement très compliqué. Après est-ce que la Xbox One et les processeurs de Xbox One doivent penser que c'est foutu, etc. Alors effectivement t'as raison, il y a Street Fighter V qui a été annoncé en exclu, il y a Far
Cry, ça fait mal par contre, hein.
Ouais, certes.
Parce que c'est quand même un sacré jeu, hein.
Mais il va certainement y en avoir d'autres, c'est évident, mais par contre je pense pas que d'une manière générale ce soit un mouvement de la part de tous les éditeurs, parce que tu peux pas te priver quand même. S'il y avait un différentiel monumental comme il y a par exemple avec la Wii U, vous vous souvenez que la Wii U quand elle est sortie, on nous a garanti qu'il y aurait tous les jeux éditeurs tiers également qui seraient là. Ça a été le cas au début, puis très vite ça n'a plus été le cas. Je pense que sur Xbox One on va continuer à avoir des jeux multiplateformes qui vont sortir, donc et sur PS4 et sur Xbox One.
C'est pas ça qui fera que la console se vende.
Voilà, après voilà. Non, mais c'est deux choses différentes, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est que la Xbox One a vendu assez d'unités, et puis on peut présager quand même qu'ils vont avoir une vraie réaction
durant cette 3. Un échec non plus pour la Xbox One,
c'est ça. Non, c'est pas vraiment un échec, enfin c'est un échec dans sa confrontation avec la PS4.
On verra si c'est un échec dans 3 ans. Parce que quand tu veux faire pas vraiment
quand tu fais une compétition, tu veux toujours être premier, ça c'est évident.
Mais
oui, quand tu vois
très bien démarrer très fort, surtout une boîte ralentir et voilà.
De quoi la PS4? Non, oui, mais j'y crois pas. C'est un phénomène. Ça va rester.
Oui, peut-être. Mais moi, je dis quand même que si il y a des exclusivités sur Xbox One, moi j'ai pas d'Xbox One par exemple pour l'instant, parce que la PS4 m'a fait acheter. Enfin, les jeux qui avaient sur PS4 m'ont fait acheter cette console en priorité. Mais si il y a un super
Knack, c'est ça,
un super titre.
Knack, Killzone.
Non, mais s'il y a un super titre qui est prévu sur Xbox One et que je vais attendre vraiment de pied ferme, là je me dis, je vais avoir la console.
Genre, t'as envie d'avoir la console
même pour un jeu. Bah, regarde, par exemple, sur Uncharted 4, bon, j'avoue, c'est un des titres qui m'a fait acheter la console. Il a l'air poussé. Parce que Sony peut se permettre de repousser ces jeux-là tellement il y a de machines vendues. Donc c'est pas très très grave. Et tant mieux si le jeu à la fin est extraordinaire. Mais s'il y a un jeu de ce genre-là sur Xbox One qui est prévu, qui est annoncé à l'E3, machin, bah c'est pareil, je vais tout faire pour avoir la console au moment où ce jeu-là sortira, quoi. Donc je pense que c'est d'abord les exclusivités de ce genre-là qui vont faire que les gens auront envie de récupérer la machine.
Et ce qu'a déclaré Ed Fry, c'est que la Xbox One ne rattrapera plus jamais la PS4.
Ouais, ça, oui,
mais ce qui est intéressant, c'est que
c'est difficile, ça veut dire.
On en parlait à la rédac justement quand on faisait cette news-là avec Romain, et on se disait, est-ce qu'on a déjà donné un vainqueur aussi vite sur une nouvelle génération de consoles?
Non,
franchement,
c'est vrai que là, c'est rare.
Moi, ça, il me semble que c'est une première.
Super Nintendo.
Il y a quand même, à peu de choses près, je pense, on peut le dire sans se tromper, qu'il y a au moins 10 millions.
D'écart
en vente aujourd'hui.
Oui, mais il y en a moins aux États-Unis par exemple. Donc voilà, peut-être qu'ils vont tout baser.
Il y a des territoires où elle se fait carrément écraser, la Xbox One. Hein. L'Allemagne, 1,6 million de PS4 contre 378
000. Un truc tout bête. Sur la génération précédente, la Xbox 360 aux États-Unis était loin
devant la PS3.
La PS3. Ouais, et là, ils ont même plus les États-Unis. Des fois, ils font un coup d'un mois, tu vois. Il va se passer un truc, donc elle va repasser
avec
devant.
Une grosse réduction sur le prix, ouais, ouais, vente, etc.
Oui, mais c'est comme ça qu'elle va passer devant un mois. Et le reste du temps, la PS4 est devant. Là, en Allemagne, t'as 1,3 million d'écart. On n'a pas les chiffres français, mais je pense qu'ils doivent être conséquents aussi. En Chine,
ouais, c'est
en un
plus,
mois,
c'est
elle a réussi à... C'est un petit marché pour l'instant. Mais en un mois, elle a réussi à passer devant. En Angleterre, la PS4, elle a déjà 2 millions. C'est, je pense que ça va être dur.
France,
en plus, il y a des signes qui sont pas vraiment encourageants, enfin, je trouve. Tu sais, c'est comme en politique. Les déclarations, il y a ce que ça veut dire ouvertement et ce que ça veut dire implicitement. Phil Spencer.
Ça veut dire qu'ils sont déjà sur la prochaine, tu veux dire ?
Non, pas forcément. Mais Phil Spencer qui dit oui, cette année à l'E3, on va faire les choses différemment. À notre conférence, on va se concentrer sur nos jeux produits en interne. Moi je vois ça comme on n'a pas réussi à avoir beaucoup de deals avec les tiers et donc on va se concentrer sur ce qu'on a, et ce qu'on a ce sont nos productions
et maison. Surtout qu'on commence à imaginer que par exemple dans le cas de Call of Duty qui était le supporter numéro 1 de la Xbox One, il y avait un deal qui faisait que les DLC arrivaient d'abord sur Xbox, les jeux étaient toujours présentés sur Xbox, quand on jouait au jeu pour la première fois c'était toujours sur Xbox, et là ça a changé avec le prochain qui nous a été présenté.
Ils n'ont rien annoncé en termes de DLC.
Non, ce que je veux dire, ce qui a changé, c'est que nous on a été voir le jeu, ça tournait sur des PS4 là-bas. C'était
vrai.
La première fois.
La priorité semble être là-dessus, effectivement.
Ouais, donc.
C'est un signe quand même.
Est-ce qu'à l'E3, ils vont pas annoncer justement un Switch parce que on comprendrait Activision, t'as envie d'être avec la plateforme leader, quoi. Ouais. Surtout quand c'est un leader aussi qui piétine autant le
évidemment,
son concurrent.
Microsoft a suffisamment d'argent pour
se
payer des exclus.
C'est pour ça que je fais
ces derniers mois, on va dire. j'ai pas l'impression.
On n'a pas vu grand chose.
Ils semblent pas aller dans cette direction.
Bah justement.
Ils font une conférence, ils annoncent mettre en avant quand même le jeu sur PC, faire arriver la plateforme Xbox
mais
sur
sûr
PC.
De ça, il y aura que
ils
ça parle, comme.
Ils parlent de HoloLens et Phil Spencer a dit aussi que
non,
le 3 il parlerait aussi du PC. Ça prouve quand même qu'avant la conférence Xbox, c'était la conférence Xbox. Là, ils risquent de nous montrer du HoloLens, ils vont parler un peu de jeux sur PC, etc. J'ai l'impression
qu'il y aura du Windows, ils vont nous montrer le nouveau Paint.
Windows 95, voilà. Et je pense que c'est.
Windows Media Player,
très bien. J'ai pas l'impression. Après, je peux me tromper, mais.
Si à l'E3, effectivement, on voit pas des choses intéressantes qui nous
interpellent. On va en voir.
Non, mais vraiment, des très belles choses.
Il y aura le nouveau Internet Explorer à l'E3.
Ils vont certainement nous montrer le remake. Ils vont nous montrer le remake de Gears of War, le premier. Ils vont nous montrer Halo 5 pour la première fois.
Non, mais pour moi, c'est
certainement y avoir de nouvelles annonces.
Pour moi, ça, c'est pas un truc qui.
Non, mais ça, c'est sûr,
il va y avoir. Je m'en fous.
Bah oui, mais Halo, si tu dis Halo, tu t'en fous. Halo,
non,
c'est quand même la plus grosse cartouche de Microsoft.
Non, mais je sais, mais c'est
et
pas
Gears, c'est la deuxième plus grosse
c'est
cartouche.
C'est pas que je m'en fous, mais je veux voir autre chose sur cette console. Bah,
t'auras oui, Microsoft bah, aussi c'est 2016.
Non,
voilà.
Mais il y a le nouveau projet de Rare.
Et il paraît qu'ils vont remettre le petit chien aussi et l'épingle à nourrice pour animer.
Le trombone.
C'est possible.
Le trombone, voilà.
Ah, c'était bien le trombone.
Le trombone, c'était le meilleur.
Il y a le nouveau jeu de Rare qui va être annoncé officiellement à l'E3 aussi. On va avoir des choses, mais. En termes de communication et de feeling, j'ai pas l'impression qu'ils préparent une offensive de ouf.
Bah c'est la spirale de la lose, hein, malheureusement. Quand tu gagnes tout, bah t'es sur notre planète.
Et dès que tu
commences à faire des erreurs, tu dois tout rattraper et tu fais pire que ce que tu devrais faire.
Et
quoi.
John Ricciatello, qui est quand même l'ancien. L'ancien PDG d'EA, qui est maintenant le PDG d'Unity, c'est pas rien, qui lui parle ouvertement, Sony a mérité sa victoire. Il
se mérite
même
un
pas,
cigare.
Genre, il dit même pas Sony va mériter de gagner,
ouais,
mérite de gagner dans le futur. C'est fini pour lui, tout s'est joué au début avec la communication. Microsoft s'est vu, selon lui, concurrent d'Apple, Sony, alors que Sony, lui, s'est juste contenté de faire du pied aux joueurs. Et pour lui, c'était la stratégie de la victoire. Et comme Julo le disait tout à l'heure, quand on en discutait, il nous semble qu'on n'a jamais eu une communication qui parle presque de la Xbox One au passé, déjà. Ça fait un an et demi qu'elle est sortie, quoi. C'est assez ouf.
C'est vrai que c'est assez flippant. Et le pire, c'est que techniquement, moi je suis pas un expert en technique et tout ça, mais techniquement, les deux consoles se valent quand même.
Non, elles ont une grosse différence.
Non, mais en termes de développement.
Pas de puissance, mais en termes d'architecture.
Voilà, c'est ça, d'architecture.
Et notamment au niveau de la... Ils ont fait un pari sur la RAM.
Mais ça, je comprends pas en fait. Comment tu peux te planter à ce
point-là, quoi? Parce qu'ils ont voulu utiliser un truc innovant là, le ISRAM, alors que Sony a pris un truc plus traditionnel
basique,
puissant, directement exploitable par les développeurs, ce qui fait que tout le monde a du mal avec les 1080p, etc.
Comme le disait Ricciatello, je pense qu'il a pas tort. Cet écart. Genre 1080p, 60 images par seconde, tout ça. Ça joue vraiment une deuxième phase.
Ça a renforcé le clou.
Voilà. Je pense que si d'emblée, genre quand ils ont présenté la Xbox One et qu'ils ont présenté la PS4, s'ils avaient martelé le jeu, enfin sur Xbox One, martelé le jeu tout de suite, c'est une console pour gamers, etc. Pas de Kinect obligatoire, machin. S'ils avaient concentré manière que Sony l'a fait. Je pense que les 1080p, tout ça, ça aurait moins joué parce que ça, c'est quelque chose qui vient et dont on est mis au courant plus tard. Si d'emblée, je pense que les fans historiques de la Xbox, s'ils avaient été séduits d'entrée de jeu, eh ben, ils se seraient dirigés vers la Xbox. Là, les trucs vis-à-vis de l'occasion, la connexion obligatoire qui finalement ça a brouillé les pistes, la communication n'était pas claire, elle plaisait pas aux gamers. Ça, c'est vraiment ça qui a joué d'emblée, les écarts techniques, parce qu'au fond, les deux machines sont quand même vachement similaires. Il y a des petits détails qui changent, mais ça reste assez proche. Et ça joue que dans un deuxième temps. Enfin, selon moi.
Mais d'ailleurs, la Xbox One est capable de faire des super jeux. Regarde les jeux 1-2 que tu avais testé, là, le jeu de plateforme que j'adore.
Ori.
Il s'appelle Ori. Je veux dire, t'as pas ça sur PS4, mais quand t'as la Xbox One, t'es super content d'avoir ce genre de jeu.
Ouais, quoi. Mais là, encore une fois, ils ont fait une erreur. Ils l'ont même pas poussé, ce jeu.
Mais ils l'ont pas poussé du tout. Voilà. Vous disiez, effectivement, c'est vraiment la communication bizarre, quoi.
Tu peux faire des choses très bien sur Xbox One. Et je pense que les gens qui n'ont que la Xbox One, la différence 900p ou 1080p, ça leur fait rien. Mais c'est juste, ça joue au moment de faire ton choix.
Exactement.
Si tu prends un tableau.
Et pourquoi pas moins alors que. Voilà.
T'as pas encore choisi ta console, les deux elles sont plus ou moins au même prix maintenant. Tu prends celle qui est la plus puissante entre guillemets, hein. Tu sais, quand tu fais des sondages dans les magasins,
oui,
les gens
pourquoi
choisissez une console plus qu'une autre, les graphismes, hein. Et donc forcément là en l'occurrence la PS4 est clairement avantagée pour l'instant. Bon, ça devrait pas changer.
En tout cas, on est d'accord, c'est Sony qui dicte le tempo un petit peu.
Ouais, ça va être intéressant de voir cette E3, vraiment, parce que c'est vrai que c'est.
Il va être assez crucial.
Ils vont rester, je pense, outsiders pendant toute cette génération, mais ils peuvent faire des percées, quoi. Il faut que ça se fasse par le jeu, quoi. Il faut qu'ils surprennent. Et probablement qu'ils sortent aussi un nouvel modèle de console, tu vois, une version slim, avec une baisse de prix, ce
un
genre de choses.
Un petit rampack, ça serait pas mal aussi, hein.
Ça nous serait chiant vis-à-vis des jeux déjà sortis, et ça serait chiant aussi vis-à-vis des 10 millions d'utilisateurs. Là, on leur sort, voilà, à partir de maintenant, les jeux qui sortent sur Xbox, bah, vous pouvez pas y jouer sur votre machine. Tu peux pas faire ça.
Oui, non, mais je disais ça comme ça. Hein.
Tu peux pas faire ça.
Donc, c'était une remarque stupide, c'est ça que t'es en train de dire.
Non, mais très bien. Vivement le 3, qu'on sache un peu ce que Microsoft nous réserve pour tenter de faire quelque chose, parce que
là,
effectivement
réagir,
ils sont
façon,
ils sont dans une mauvaise passe, quoi.
Là c'est du pur feeling,
c'est con, j'ai pas une question
c'est
de feeling,
une question de
dans mes trucs,
c'est du pur feeling, mais je pense qu'on va être déçu par la conf Xbox. J'ai un mauvais pressentiment.
Pas la conf
moi
PC,
j'adore Halo, j'adore Gears, donc ça va me faire plaisir, mais dans l'ensemble,
oui, mais c'est,
les gens
connais.
Qui s'attendent à un retour tonitruant, genre une
non, on
une
s'attend toujours à trop avec le 3, voilà, de manière générale.
Je pense que les gens qui s'attendent à une contre-offensive massive de Microsoft, se disant ouais, Microsoft a de l'oseille, ils peuvent le
non,
faire.
Non, mais ce qui ferait une bonne conférence, c'est de réussir la démo.
Moi, je veux Quantum Break.
Oui, il y aura, ouais, je pense. Hein.
Au moins ça. Non, ça
dans
si.
Deux ans, c'est bon.
Réussir, oui, je sais, mais au moins montrer quelque chose.
Réussir la démo de Halo, réussir la démo de Gears of War, réussir la démo de Quantum Break. Annoncer un ou deux nouveaux jeux qui tapent vraiment dans l'œil des gens. Et coupler ça avec une baisse de prix ou un nouveau modèle ou les deux, là, enfin, tu fais ça dans une conférence.
Oh, je pense
on serait pas déçu. Hein.
Mais Sony va bouger d'un pion.
Voilà,
ils vont baisser le prix.
Voilà.
Ah bah attendez, nous
c'est le double effet qui se coule. C'est ça, parce que en plus Microsoft ouvre le bal des conférences en principe constructeur. Hein, ouais. Je veux dire.
Donc Sony aura l'avantage.
C'est vrai que tu peux sortir d'une conf Microsoft en te disant ouais, c'est vrai qu'elle était pas mal. Mais si après le lendemain Sony t'annonce tous ses jeux le soir, si Sony t'annonce tous ses jeux first party et que l'emblée dit bah voilà toutes les exclus tiers qu'on a, et pas forcément sur des exclus de jeux entiers mais d'un DLC intéressant ou un truc comme ça, bah là les joueurs Xbox ils vont forcément se sentir lésés. C'est de là que sort cette impression de déception finalement.
Et t'imagines si Sony montre The Last Guardian? Alors là ils ont volé le spectacle, je vous le dis direct.
Ouais. C'est ça va faire parler, mais en termes de vente,
ouais,
c'est...
je pense pas non plus. Hein.
Je sais pas, hein, parce qu'il est quand même très attendu.
Je dis ça alors que Last Guardian, il m'intéresse.
C'est une bille en plus.
Non, mais Trace dit pas que ça va se vendre, il dit juste que en termes de com, voilà,
oui,
s'il le montre et que tout le monde fait.
Ne serait-ce que ça, parce qu'il est quand même super attendu, mine de rien. Même si depuis le temps, voilà. Bon, on l'attend presque plus, mais quand même.
En tout cas, le 3, c'est bien, messieurs. Mais juste après le 3, il y a la Gamescom. La Gamescom, c'est saucisse, sa bière, et surtout...
C'est Bretzel.
Le
Bretzel au fromage.
Et David Asloff qui chante Doom.
Non mais attends, mais c'est vraiment lui qui chante ça?
Bien sûr que c'est lui.
Ah merde.
Tu connais pas Doom, David Asloff? Chanson mythique.
Après Alerte à Malibu, il a chanté en allemand.
C'est avant, hein.
C'est avant,
avant, hein, je crois. Écoutez sa voix charmante.
Ah ouais, c'est balèze, là.
Bah oui, voilà, il parle en allemand, il est très allemand, ce David Asloff. Et pourquoi une chanson en allemand? Eh bien parce que Sony, encore une fois, hein, Sony,
là,
va lâcher la Gamescom au profit de la Paris Games Week. Alors ça, c'est l'annonce tonitruante.
C'est une bombe un petit peu.
Et c'est
même,
un peu, j'ai envie de dire, quelque chose qui tenait à cœur à Julien.
Julien,
je me rappelle d'un débat Gameblog qu'on a tourné justement à l'entrée de la Paris Games Week.
Qui était très très chaud d'ailleurs.
Qui était très très chaud à l'entrée de la Paris Games Week avec Julo et Julien. Qui se prenait un peu la tête en se disant mais non t'inquiète, la Gamescom c'est trop bien, la Paris Games Week aura jamais de poids machin. Julien qui disait mais si, tu verras ma couille, un jour la Paris Games Week ce sera le rendez-vous européen. Et ben on peut donner que raison à Julien, puisque Sony en tout cas est en train de dicter une fois de plus le tempo.
C'est bizarre, c'est que je me dis en
disant non à la Gamescom et oui à Paris. Julo, tout
non
de
la drogue.
Attends, juste avant.
Alors d'abord,
je me dis que c'était trop précis ce que nous disait Julien. Je pense qu'il savait des choses, parce qu'il nous fait souvent de genre.
On savait que les organisateurs Paris Games Week
faisaient le forcing,
et qu'ils avaient beaucoup de supporters.
Beaucoup
dans ce sens, parce qu'il y a pas mal de gens que ça emmerde de faire la Gamescom, d'avoir un rendez-vous si important au mois d'août quand tout le monde prend ses vacances. France. Même pas un mois. D'aller en plus en Allemagne, ce qui est pas, c'est quand même vachement moins.
Bah c'est glamour.
Vachement moins glamour que Los Angeles ou probablement Paris.
Ou Malibu. On y retourne cette année.
Non mais voilà, justement, en préambule, disons-le clairement, est-ce que Sony a tué la Gamescom? Je pense pas non plus. Parce qu'en fait, bon, la Gamescom de toute façon va rester au pire comme un rendez-vous national allemand.
Oui. On parle que de la conférence, et, hein, et d'accord. Oui, sa présence, voilà.
Mais non, mais c'est-à-dire que
ouais, mais les conférences jouent vachement sur le.
Ah oui, oui,
c'est pas mal de choses.
C'est les conférences qui font que c'est un rendez-vous international.
Oui. La conférence, rappelons-nous l'année dernière quand même, Pity.
Ouais.
Voilà, Pity, c'était la Gamescom.
Mais toujours, Sony a toujours fait des belles conférences à la Gamescom.
À l'époque, la PS3 Slim, la de prix de la PS3, tout ça sont des annonces qui ont été faites à la Gamescom.
Donc, par exemple, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que du coup Microsoft va suivre le mouvement et dire bon, bah nous aussi, on déplace à Paris, etc. Non, tu vois. La conférence Microsoft aura lieu à la Gamescom, en tout cas cette année. Après, qui sait, peut-être que dès l'année prochaine, la Paris Games Week aura tué la Gamescom. Dans tous les cas, c'est un move super important et franchement moi ça m'a surpris que ça vienne pas trop, que ça vienne si vite, ouais. Franchement,
mais attends, mais ils vont faire où la conférence, enfin,
c'est ça qui
Porte de Versailles, je pense.
Oui,
il y a de la place là-bas,
Porte de Versailles, il y a quand même pas mal de place,
non,
évidemment,
tu sais, au Palais des Congrès, au Palais des Sports.
Ah oui, Palais des Sports,
Palais des Sports, ouais, Sony,
ah bah là pour le coup, oui, c'est juste à côté, effectivement.
Oui, oui, ils auront très certainement une belle salle. Enfin, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, pour que la Paris Games Week remplace
la Gamescom,
il faut aussi que ce soit un rendez-vous international en termes de
professionnel.
Professionnel,
et puis y avoir des choses nouvelles à voir là-bas.
C'est ça. Assez colossal quand même, la Gamescom.
Et moi, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est parce qu'on parle beaucoup du calendrier en disant que finalement c'est mieux de déporter à la Paris Games Week parce que la Gamescom est trop proche de l'E3. Alors c'est vrai que la Gamescom est proche de l'E3, mais le Paris Games Week, ça va être donc fin octobre, début novembre, si je dis pas de bêtises. C'est un moment où les ventes de fin d'année sont déjà faites, etc. Ça voudrait dire que ça deviendrait un salon qui présenterait des jeux avant l'E3.
Oui, pour les jeux
de 2016.
Oui, les jeux qui sortent en mars ou là, en mai.
Ça veut dire que...
Je sais pas si vous voyez, mais il peut y avoir un événement par saison, tu vois, l'été réservé à l'E3. L'automne à la Paris Games Week et à la fin de l'année, l'événement de Geoff Keighley là pendant l'hiver.
Non mais c'est, l'E3 c'est avant la grosse période de fin d'année, donc tu peux présenter les dernières démos qui tuent la gueule des jeux qui vont sortir donc 4 à 5 mois après. Ok, juillet, août, septembre, octobre, novembre, voilà. Septembre, octobre, novembre, c'est le moment où les jeux de fin d'année sortent.
Ouais.
Et la Paris Games Week arrivera après la sortie de ces jeux. Donc ça veut dire qu'elle est condamnée dans les à parler des jeux de l'année suivante. Et donc d'en parler avant le 3.
En fait, le truc c'est
donc ça devient un rendez-vous ultra important.
Oui,
si voilà.
Ouais, mais je te dis ça peut être une préparation but, hein. Justement comment s'appelle c'était les Game Awards, c'est ça?
Ouais,
il y a
eu
énormément de pareil de petites révélations, de choses comme ça. Moi je pense qu'il y a une espèce de calendrier qui commence à se mettre en place et que la Gamescom peut-être n'en fait pas partie.
Moi je pense que le Microsoft a fait le choix de continuer sa conférence Gamescom justement pour pas donner l'impression de faire comme Sony, tu vois ce que je veux dire? Là en termes de com, faire bah nous aussi on fait, donc ça fait on suit Sony parce que c'est le leader et on fait pareil, donc je comprends pourquoi ils l'ont pas fait. Après je sais, en tant que français et parisien, je trouve ça dommage parce que c'est vrai que moi je trouve ça cool d'avoir les confs chez nous et d'avoir d'avoir un vrai salon à Paris. Par contre il faut clairement, en fait je pense que la décision de Sony de faire une conf, je pense que c'est lié à pas mal de pourparlers avec les organisateurs de la Paris Games Week qui ont dû donner, je pense, un certain nombre de garanties à Sony quant à l'envergure du salon. Parce que nous on y est à la Paris Games Week parce que c'est un salon français et qu'il faut y être, mais en termes d'intérêt pour la presse c'est ultra limité. Parce que là maintenant,
mais justement parce qu'on parlait des jeux de fin d'année une semaine avant leur sortie,
oui,
ou une semaine après
plein de jeux déjà sortis, voilà. Etc. Mais le truc c'est que pour une conférence Sony, tu vas faire venir un IGN, tu vas faire venir un Game Informer, tu vas faire venir un GameSpot, etc. Et tu les imagines se balader dans les allées de la Paris Games Week
et se faire chier.
Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? On a strictement rien à faire ici. Donc je pense que
donc il y aura des choses à montrer
pour que Sony décide de ok, on va faire notre conf à la Paris Games Week, mais il faut que vous vous assuriez à côté. Donc je pense qu'effectivement c'est la seule nécessité.
Tu penses qu'il y a d'autres développeurs ou d'autres éditeurs qui sont déjà dans la confidence, qui vont sûrement aussi se lancer dans l'idée que
c'est vrai, comme dit Romain, c'est étonnant qu'il n'y ait que la conférence Sony à côté des trucs
de base. Que ça soit le même salon, t'imagines, avec que des jeux
de le faire.
Oui, ou au moins que sur les stands tu présentes
Nintendo
évidemment tes jeux qui viennent de sortir ou qui vont sortir pour les consommateurs, mais présenter aussi des choses qui vont venir dans les 6 mois après, ouais. Dans les 6 mois qui suivent. Vraiment, c'est une obligation.
Le gros point d'interrogation que j'ai, c'est ça, moi.
Ou alors ça va être un, s'ils font pas ça, ça va être un méga coup d'épée dans l'eau.
Il faut que ça ait un intérêt pour les journalistes et les professionnels
d'aller sur le Gamescom plus Paris Games,
d'aller sur le show floor.
Sinon ça fait que rajouter un événement pour eux et ça va être galère parce qu'il faut créer des démos, il faut créer des trucs comme ça, ça va leur prendre la tête. C'est la première étape, j'espère, d'une vraie transition de la Gamescom à la Paris Games Week.
D'accord. Et donc ça veut dire que la Gamescom, on peut commencer à faire une croix dessus, nous les joueurs.
La Paris Games Week,
incroyable à la Gamescom, il y a un monde fou.
Bah oui, c'est
tous
ça.
Les ans.
Ce que tu disais, c'est colossal.
Il y a quand même eu quelques annonces. Il y a
tellement d'Européens qui se déplacent juste pour la Gamescom. Enfin, franchement, les Belges, beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français qui vont à la Gamescom.
Non, mais il y a les Américains, il y a tout le monde.
Les Anglais.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, déjà pour ceux qui viennent de très loin. Je pense que Paris, c'est quand même un peu plus sexy que Cologne.
C'est plus prestigieux, oui, forcément.
Plus prestigieux. Ouais. Et même pour les.
Mais parce qu'ils imaginent que c'est la même ville que dans les films de Woody Allen aussi, c'est pour ça. Parce qu'en vrai, ils savent très bien que Paris, c'est pas ça.
Enfin, Barbès, c'est pas ça, quoi.
C'est plus réjouissant d'aller à Paris que d'aller à Cologne. Et même, je te dis, il y a beaucoup de Français qui font le déplacement.
Tu connais Klaus Allofs?
Si tu leur dis, vous n'avez pas besoin d'aller si loin, il suffit juste d'aller à Paris pour avoir tout ça, c'est mieux.
Non, en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour que les choses continuent dans le bon sens, il faut que la Paris Games Week se métamorphose totalement.
Clairement.
Voilà. C'est-à-dire que si c'est juste la Paris Games Week de d'habitude avec une conférence, c'est-à-dire aucun intérêt pour les professionnels d'aller sur le salon, c'est réservé au grand public, aucun intérêt. Non, il faut que ça soit le deuxième temps fort. En fait, il faut que l'E3 devienne le moment où on dévoile, on montre, on laisse jouer la première fois au jeu de la fin d'année et que la Paris Games Week devienne à ce moment-là, et là, ça serait un bon temps, effectivement, le moment où on joue pour la première fois, où on dévoile pour la première fois, etc., les jeux de début d'année 2016, c'est-à-dire les jeux de mars, etc. Là, ce serait idéal.
Plus quelques petites annonces pour des jeux qui viendront dans 2 ans, etc., pendant les confs, mais ils sont obligés de transformer le salon.
Grandir, probablement aussi, parce que quand même.
Oui, parce que déjà, l'an passé, ils avaient rajouté un hall supplémentaire. Ouais. Mais mine de rien, c'était pas si gigantesque que ça. Hein.
Ah bah quand malgré un Hollande.
Non, mais alors pour vous dire, la Paris.
Par rapport à la Gamescom, je veux dire.
La Gamescom, c'est vrai.
C'est un mini E3, quoi.
Non, c'est beaucoup plus grand que l'E3. Et c'est beaucoup plus grand que la Paris Games Week. C'est 3 fois plus grand.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et surtout, t'as toute une partie du salon qui est à peu près grande comme le Paris Games Week, qui est uniquement réservée aux professionnels. Tu rentres pas si t'as pas un badge professionnel, etc. Où tu fais les behind closed doors, ce genre de trucs. Et t'as tout le reste du salon qui est donc 2 fois plus grand que la Paris Games Week. Qui, lui, est réservé au. Enfin, pas réservé, qui est ouvert au grand public.
Mais là, il y a un monde fou, quoi.
Parce qu'il y a un monde de dingue. Mais je veux dire, c'est véritablement gigantesque et ultra bien organisé.
En termes d'organisation, voilà, exactement, ça va être chaud. Parce qu'à Paris, on sait comment ça se passe, hein, les salons. Les jeux vidéo.
Organisation à la française versus organisation à la
merde. Tu fais venir Moïse et il va te régler
avec sa canne.
Non, mais ça va être vachement intéressant d'observer en fait les transformations qui vont être du coup effectuées dès cette année pour le Paris Games Week. J'attends ça avec impatience.
Et faudra voir.
Et pas avec méfiance.
Peut-être qu'un signe avant-coureur, ça sera aussi de voir si la présence des éditeurs tiers
de François Hollande
est plus faible à la Gamescom cette année. Et ou peut-être que d'autres éditeurs, parce que EA fait une conférence à la Gamescom, etc.
Qui ne sert jamais à rien et qui est toujours pourri.
Je me souviens de la présentation des Sims avec, regardez, on a recréé Angela Merkel dans les Sims, etc.
On ressort sourd aussi.
On ressort blasé parce que franchement, on
n'a
rien.
Non, mais ça arrive. Il y en a eu des meilleures que d'autres quand même. Mais bon. En tout cas, la conférence de Microsoft est en général quand même plus petite et moins intéressante que la conférence de Sony à la Gamescom. Donc quand même le fait que Sony s'en aille, c'est une très très grosse perte pour la Gamescom et un gros coup sur la tête, je pense, pour ce salon.
Et tu vois, je pense que Microsoft,
ça dépend, parce que le public allemand est très PC, hein, donc
non mais attends, le public allemand c'est une chose, là on parle de la Gamescom en tant que rendez-vous international.
Bien sûr,
parce que ça va rester un gros rendez-vous allemand, c'est évident.
Le public européen est très PC, ils ont quand même acheté 1 600 000 PS4,
mais ils sont très PC aussi.
Oui, ils sont très PC, mais ce que je veux dire, c'est que
à la Gamescom, t'as tout un hall. Donc les halls sont véritablement gigantesques. Hein. Il y en a
tout un hall entier, avec 50 bières différentes.
Non, réservé. Ouais, ça, ça t'inquiète.
T'es fermé que je partout.
Non, non, c'est un hall entièrement réservé aux jeux PC, réseau, etc. Là où t'as plusieurs halls ensuite à côté, avec Sony et Microsoft qui sont chacun dans un hall différent, avec tout autour d'eux d'autres éditeurs, etc.
Mais tu vois, les chiffres de vente, c'est vraiment ce qui me fait dire que Microsoft n'a pas déplacé sa conf juste pour pas avoir donné l'impression de faire comme Sony, parce que tu regardes les chiffres de vente de la Xbox One, tu regardes les chiffres de vente de la Xbox One en Allemagne, c'est quand même pas terrible, et on n'a pas les chiffres français.
Bah en France,
mais
c'est trois fois moins aussi. Hein,
mais
c'est pareil,
oui,
hein.
Je sais, mais j'ai tendance à penser qu'ils sont quand même meilleurs en France qu'en Allemagne.
Je crois que c'est à peu près pareil, il me semble, hein, de mémoire.
Tu penses ?
Je crois que c'est à peu près pareil.
Ouais. Parce que j'ai pas les chiffres, mais ouais, je pense que ce serait plus logique pour eux de faire leur conf. Même, je te dis, rien que par rapport au calendrier, ce serait plus logique de la faire
et
à Paris.
Et par rapport à la barrière de la langue, imaginez tous les journalistes étrangers qui vont arriver en France et qui voient que personne parle anglais.
Ah oui, alors ça c'est un truc de fou, parce que quand tu te balades dans les allées de la Gamescom, tu peux t'arrêter sur n'importe quel stand, PlayStation, Bethesda, etc. Tu parles en anglais.
D'ailleurs,
alors tous les trucs, comment dire, les petits panneaux qu'on met à côté des démos avec les boutons, etc., comment utiliser le jeu, c'est souvent en allemand, du coup. C'est là que tu vois que t'es en Allemagne et t'es sur un salon quand même allemand, mais par contre les mecs ils parlent tous tous les démonstrateurs
c'est la question que je me posais, parce que les confs qui sont organisés dans le cadre de la Gamescom, à part peut-être l'animateur au début ou le représentant local qui va faire une petite phrase ou deux en allemand pour saluer le public, la conf est intégralement en anglais. Est-ce que Sony va faire sa conférence à Paris en anglais?
Évidemment,
c'est sûr.
Ils sont obligés.
Évidemment.
Oui, c'est une conf internationale, ils seront obligés
de
le faire
en breton en fait.
Peut-être qu'après Chouchou
en
va
picard,
arriver.
Hein.
Chouchou va peut-être arriver.
Bienvenue à une conférence
en...
PlayStation.
En disant quelques mots français, genre bonjour Paris, j'adore le camembert.
Voilà. La tour Eiffel.
La baguette. Mais pour le reste, oui, ce sera entièrement en anglais. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner à la Gamescom après le 3.
En tout cas, si la Gamescom meurt, ça sera probablement, je pense, l'année prochaine. Du coup, faut voir.
Je pense que
ça
mourra pas.
Cette année, on va être dans une année de transition. Du coup, ça va être assez bizarre. Je suis impatient de voir l'ambiance à la Gamescom et surtout les transformations du Paris Games Week.
Bon, la Gamescom, on ira ou pas, Julo, alors?
Bah, je pense, ouais, on va y aller. Il y a une conférence.
Cool.
Il y a une conférence Sony. Oups!
Il y a une conférence Microsoft. Ouais. Va y avoir très certainement les conférences Electronic Arts habituelles. Ubisoft.
Oui, Ubisoft en fait. Ubisoft, je ne sais pas s'ils le font cette année, mais
je pense qu'il en a fait une dernière.
Oui.
Bah, de toute façon, on ne sera pas invité.
Tout de suite, mais si, enfin.
C'est bien possible, effectivement.
À la conférence Ubisoft?
Mais oui, c'est sûr.
Ah, bah, je pense pas, non?
Bah attends, t'inquiète pas, je vais faire
un non, on sera pas invité. Hein.
Je vais vous faire rentrer.
On pourra rentrer en mode ninja peut-être.
Ouais, voilà, exactement.
Bon, en mode Sam Fisher plutôt.
Les pleurs des toits et tout.
J'ai envie de voir la Gamescom en tout cas, rien que pour retrouver cette petite ville que
j'avais trouvée charmante. Comme une merde.
Mais bon, messieurs, maintenant on va passer au troisième thème. Parce qu'on s'évade un petit peu avec cette Paris Games Week.
En Allemagne.
Il faut se recentrer.
Il est temps de mettre un gros coup d'accélérateur à ce podcast.
Il faut appuyer sur le champignon, même, j'ai envie de te dire.
Ça, c'est de la transition.
Alors, cette musique a fait beaucoup réagir à la rédaction.
On croyait tous que c'était une musique, un générique de film de cul, mais en fait, non.
Non, c'était pas ça.
On pensait plutôt à quoi?
Un film de suspense.
Une musique d'MGS, quoi, je sais pas, ou une musique.
Mais pas que celle-là, hein. Il y en a plein des musiques. Il y en a une un peu qui fait un peu opéra, tu sais.
Bah oui, mais c'est bien, moi je trouve ça bien.
Ultra kitsch, c'est rigolo.
Mais en fait, dans quasiment tous les jeux de bagnole, c'est à chaque fois des musiques héroïques.
Non, mais c'est Casino Rick instaurer ça aussi à chaque fois.
De quoi, le fait que ce soit épique.
Là on dirait vraiment du Metal Gear.
Ah bah oui, c'est clair.
C'est vrai que ça fait jeu d'aventure.
Et pourtant, c'est Project Cars. Exact, Project Cars qui est sorti cette semaine.
Project Cars.
Et Traz,
Projet voiture.
Tu vas nous répondre à cette question.
Un bon titre. Hein.
Oui.
Est-ce que c'est le meilleur jeu de caisse de tous les temps?
Bah, je suis tenté de dire oui quand même.
C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce jeu?
Bah rien. Bah en fait, c'est le, j'allais dire degré de réalisme, mais oui, le degré de réalisme, pas seulement dans la conduite, parce que là évidemment le gameplay il met la barre vraiment très haut par rapport au Gran Turismo, au Forza, qui était déjà très très bon, hein, surtout les derniers. Mais là, on a atteint encore un nouveau seuil parce que justement tout est pris en compte.
Cette musique, sérieusement, je suis désolé.
Tu vas pas faire croire que tu prends des virages en écoutant ça.
On va prendre la voiture.
Tu te lèves pas le matin, tu mets pas ta clé, tu mets pas ta clé en contact en écoutant ça. Je suis désolé.
Vous sauvez le monde à chaque virage.
C'est épique.
Mais oui, mais non, mais ça va pas du tout.
C'est épique. Regarde, quand tu vois la vidéo, tu dis,
bah oui, tu. Alors pour les premiums qui voient la vidéo, effectivement, vous imaginez en F1, musique Michel Vaillant.
Exactement.
Pour ça, non, c'est là. Moi, je trouve ça un peu grotesque, mais bon.
Mais vraiment, voilà, c'est une des rares fois où les vidéos qu'on a pu voir avant, toutes les photos, etc.,
sont conformes à ce qu'on joue dans le jeu. Vraiment, ouais. C'est hallucinant. Surtout sur PC, je t'attendais à dire, parce que bon, quand t'as un super PC, comme on a eu la chance d'avoir ici, et que.
Bah là, on voit les courses sous la pluie, là.
Tu peux tout mettre à fond et tout, mais là, c'est le régal total et absolu, quoi. C'est,
alors, les sensations de conduite, elles correspondent exactement par rapport à un Gran Turismo ou un Forza?
D'abord, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'elles sont multiples. Parce que t'as des voitures de GT, t'as évidemment, t'as du kart, ce qui est un peu plus rare.
Du kart, super. Alors, kart, il est tellement réaliste qu'il a littéralement fait vomir. Enfin, pas fait vomir, mais pas loin. J'étais vraiment pas loin de vomir. J'étais
vous
tout
auriez
blanc.
Vu la tête de Traz.
J'étais tout blanc, je jure que c'est vrai.
Blanc comme le polo de Julo.
C'est incroyable qu'on soit sujet au motion sickness, mais juste avec du kart.
Mais que le kart, et les autres, ça va.
Mais parce que le kart, c'est super violent.
Parce que le kart, ça bouge dans tous les sens et tout. Puis la caméra était à 60 images secondes, justement.
Sur PC.
C'est waouh, c'est violent quoi, c'est violent. Mais tant mieux, c'est
que
bien,
ton champ de vision est beaucoup plus limité que quand tu conduis un vrai kart et ça permet, c'est peut-être ça qui te déstabilise.
Et puis tu bouges pas forcément la tête comme en vrai, etc. Mais là, le problème, c'est qu'effectivement, comme moi, je joue toujours en vue subjective, bah oui, du coup, c'est.
Faudrait essayer avec
le kart, ça bouge beaucoup.
Bon, on centre un peu le débat.
Et donc,
comme disait Julo, effectivement, il y a plein de modèles différents. Et chaque modèle se conduit différemment.
Même type de modèle. Là, c'est ça. Il y a des monoplace, des GT, du kart, des supercars,
des LMP, donc le Mans, type voilà. Le Mans, etc. Des Formule 1,
et tout ça avec une approche du pilotage totalement différente à chaque fois.
Exactement.
Moi j'ai commencé vraiment, ma carrière avec les monoplaces par exemple, toi avec le kart. Donc ça, on va dire c'est un peu plus proche, mais on va dire si tu commences en GT, tu vas vraiment apprendre à piloter différemment.
Ta carrière différemment.
Oui, t'as trois choix différents. Enfin, je vais pas les résumer là parce que j'avoue que je me souviens plus trop, mais bref c'est pas grave. Ouais. Tout est dans le test de toute manière. On peut commencer un petit peu. Comme on veut, avec des classes différentes. T'as 8 classes, hein, c'est ça? J'ai dit pas de bêtises.
En fait, quand tu commences la carrière, elle est divisée en saisons. Voilà. Okay, donc ça, c'est assez classique. Tu vas passer quelques années comme ça à enchaîner les saisons. Et t'as des objectifs de carrière, c'est ça? Les trois choses dont parlait Traz, c'est les trois badges que tu peux gagner en fait pour être un super héros de Project Cars. Mais en gros, après, c'est totalement libre. Tu peux commencer en fait dans n'importe quelle catégorie, donc voilà. Monoplace,
comme
GT,
kart,
machin, là. Enfin, kart, c'est la même catégorie que monoplace en fait. Tu peux zapper le kart et commencer directement avec les premières monoplaces, les formules R rookie là.
Mais à chaque fois t'as des objectifs différents, ils sont toujours aussi compliqués
voilà. Par exemple, si tu commences avec une catégorie reine tout de suite, tu vas devoir essayer de gagner le championnat du monde et de le conserver pendant 3 ans
voilà. Alors la que si tu commences Margarita, calzone
c'est ça
exactement voilà.
Et quand tu commences avec le kart, l'objectif ça va plus être de grimper les échelons le plus rapidement possible pour arriver
une vraie carrière entre guillemets
donc tu peux commencer un peu comme tu veux, puis t'as une espèce de calendrier qui fait que voilà, t'enchaînes tes courses de monoplace par exemple, et puis de temps en temps, selon tes résultats, t'es invité à des trucs
à
un peu particuliers.
À des sessions de pilotage de directeur d'écurie qui dit tiens, c'est pas mal ce que vous avez fait là, on vous invite à tester cette voiture là pour voir ce que vous allez valer, etc. Et de fil en aiguille, justement, tu montes.
La carrière est assez sympa. Intéressant à prendre en main. Tu sens une véritable progression, etc.
Non, le mode carrière est très très bien pensé. Ça change de ce qu'on connaissait plus ou moins. Permis, tout ça, machin. Mais t'es directement dans le vif du sujet, quoi. Et ça, c'est vraiment une bonne chose.
D'accord.
Évidemment, t'as quand même le mode solo où tu peux t'entraîner dans toutes les conditions possibles et imaginables. Brume, petite brume à tempête, pour la météo par exemple.
Le truc qui est génial avec la météo, c'est que
tu peux l'avoir en
dans les rares jeux où tu as des effets météo. Il n'y en a pas dans Forza par exemple.
Ils sont bloqués.
Voilà, tu choisis de faire la course sous la pluie, tu fais la course sous la pluie. Là, tu peux décider de jusqu'à 4 étapes.
Voilà, 4 étapes.
Donc je vais partir en super beau, ensuite ça va devenir nuageux, et ensuite il va y avoir un putain d'orage, et après l'orage à nouveau.
Avec obligation de changer de pneumatique du coup
Si tu fais des courses avec plusieurs. Avec de nombreux tours, t'en arrives à être obligé de changer tes pneus.
Ce qui est fou, c'est qu'au niveau des décors et tout, mais tout change, mais de manière naturelle quoi. T'as le crépuscule, t'as le coucher de soleil. T'as la nuit qui tombe ou t'as la pluie qui commence à arriver, enfin tu vois les nuages qui s'amoncellent, etc. Enfin c'est
et
bluffant,
tout est vraiment paramétrable bluffant. Aussi bien sur les
voitures. C'est un truc de dingue quoi.
En fait c'est assez dingue, c'est qu'il n'y a pas que les voitures et la météo et ce genre de trucs, c'est en fait tout est paramétrable dans ce jeu, mais y compris la façon dont s'affiche l'ATH.
Voilà, exactement. Dis ce que c'est que l'ATH, parce que
l'affichage tête haute, c'est-à-dire l'endroit où apparaît la carte.
Moi, je dis le HUD en fait, c'est pour ça.
Le nombre de tours, etc. Tu peux décider de la place que tous ces éléments vont avoir. Tu peux même tout enlever, etc. Et même par exemple, chacune des vues, donc il y a énormément de vues, il doit y en avoir 6 à 8, voilà, enfin beaucoup de vues différentes. Et chacune d'entre elles, tu peux les rapprocher ou les éloigner. éloigner un petit peu dans les menus. Tu peux aussi ajouter plus ou moins d'effets de, tu sais, le casque du pilote qui bouge quand tu freines et que tu accélères.
L'effet de flou sur le volant,
l'effet
pour
de flou,
avoir enfin tu... vision sur la route, etc. Mm-hmm. Enfin,
tu peux tout. Ben là, tout paramétré, c'est vraiment, tu peux pas faire mieux. Quoi.
D'accord, mais en termes de contenu aussi, parce que
le contenu,
les sensations étaient bonnes.
Il y a 200 courses, il y a 63 voitures, il y a une trentaine de circuits, 75 events. Mm-hmm. Il y a que 65 voitures effectivement pour l'instant. Il y a un pack de DLC qui est sorti récemment.
Bah, il y a pas mal de gens qui vont lui reprocher, je pense, le nombre de voitures.
Bon, il n'a pas 600 comme dans Gran Turismo, c'est sûr. Voilà. Mais bon, après dans 600.
Mais en même temps, on se fout pas de ta gueule avec 4 fois le même modèle de 4 années différentes, tu vois. Chaque bagnole est vraiment unique. Bon, déjà dans la manière de piloter, comme disait Traz, mais voilà, c'est vraiment des voitures avec des spécificités propres à chaque fois, très différentes les unes des autres. Quoi.
Quant au volant.
Ah voilà, d'ailleurs, on voit la vue volant là. Un truc marrant, c'est que tu peux, je parlais de la façon dont ils te permettent de tout optimiser. Et bah, si par exemple, toi, tu joues avec un volant chez toi, tu peux décider de ne pas afficher le volant dans cette vue.
D'accord.
Tu vois, donc tu verras plus les mains
t'as
du pilote et le volant, parce que c'est tes mains à toi et ton volant à toi qui apparaissent.
Ça, c'est une bonne idée.
Ah, c'est une excellente idée. Ouais.
Excellente idée, parce qu'en plus tu peux plus ou moins l'approcher. Si par exemple ton écran est très proche de ta télé, il y a des gens qui ont des véritables comme des bornes d'arcade, tu vois, dans lesquelles ils placent un écran, leur volant, etc. Bah, hop, tu fais disparaître le volant comme ça. Ça renforce encore plus l'immersion.
Alors, non, vraiment, c'est beau, c'est immersif, ça a l'air mortel, mais
c'est long,
est-ce
c'est
que
très,
vous
très
conseilleriez l'un comme l'autre à des débutants, à des gens qui ne sont pas des férus de simu quoi.
Oui, parce que tu as un niveau de difficulté, enfin tu as un niveau d'IA que tu peux mettre de novice à as. Et franchement, si tu mets à zéro, c'est bon, tu gagnes avec 50 secondes d'avance. Hein,
après, je pense que les pilotes novices,
les gens,
franchement, non.
Ça y est.
Non mais je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que quand tu prends le niveau minimal, c'est-à-dire toutes les aides activées dans Project Cars, et tu prends le niveau minimal toutes les aides activées dans Gran Turismo ou Forza, c'est le jour et la nuit.
Ah oui,
c'est-à-dire que là il y a tu fais quand même des têtes à queue si tu accélères trop en sortie de virage.
Exactement.
Dans Forza et Gran Turismo, si tu as toutes les aides et que tu accélères comme un porc en sortie de virage,
c'est pas possible.
Tu feras pas de têtes à queue.
Je suis super d'accord avec toi parce que je l'ai testé effectivement.
Voilà, donc
c'est quand même
je trouve vachement plus réservé à ceux qui aiment la simu que un Forza ou un GT qui peuvent être tout à fait abordables quand tu es juste
très arcade.
Voilà. Là,
je suis quand même pro. Tu parlais de problème d'IA justement.
Ouais, l'IA, bon,
encore une fois,
je parle de niveau difficulté de l'IA qui est pas tout à fait pareil avec l'intelligence de l'IA. Enfin, pour moi, c'est pas la même chose.
Non, moi, je te parle juste de l'intelligence.
L'intelligence est un peu pourrie, il faut bien le dire. Ils gardent leur ligne en permanence.
Comme dans Gran Turismo, donc.
Ça, c'est chiant. Parfois, ils te voient, mais souvent trop tard, donc ils te rentrent dedans. J'ai eu des carambolages monstrueux alors que j'avais rien fait, tu vois. Donc
pas comme dans Gran Turismo, parce que Gran Turismo ils sont scotchés à leur ligne, c'est-à-dire tu leur rentres dedans et ils sortent pas de piste.
Non,
là ils sortent de piste.
L'IA dans Gran Turismo est quand même un petit peu meilleur, je trouve.
Sur la façon d'éviter les accidents,
là,
les gens.
Ils
t'évitent
pas trop, ils gardent leur ligne.
Ils sont parfois anormalement agressifs, d'autres fois pas du tout.
C'est un truc à régler. Vraiment,
et un
parce
dernier
que
mot
c'est
rapide sur le comparo entre les trois versions PC, PS4 et Xbox One. Est-ce qu'il y en a pas une
qui sort du lot aussi, la PC,
qui sort du lot. Il n'y a pas de problème lié spécifiquement à la Xbox One ou à la PS4.
Si.
En termes de tearing, où j'imagine.
En fait, on a fait un comparatif d'ailleurs, tu disais, il est dans les articles les plus lus.
Exactement.
Bon, la version PC, elle est.
Quand ça pouffie,
si t'as un PC de compète, elle est évidemment incroyablement supérieure dans absolument tous les compartiments. Ouais. Donc, ne serait-ce que la définition des textures, la beauté de chacun
effets,
des effets.
Tu mets tout à fond, la liaison et tout. Machin,
évidemment, le nombre d'images par seconde, le frame rate, qui est optimal sur PC.
Et qui est constant.
Si tu fais les bons réglages selon ta. Etc. Voilà. Alors que, effectivement. Le framerate est beaucoup plus instable et plus bas sur Xbox One comme sur PS4. La version PS4 est quand même un brin supérieur.
Un poil meilleur que
sur Xbox One. Même s'il y a un effet de motion blur qui énerve pas mal de gens. On peut parler de cache-misère. D'autres, ça permet de faire mieux passer justement les problèmes de tearing et d'aliasing. Parce qu'il y en a évidemment plus sur console que sur PC aussi. Et moi, je joue sur la version Xbox là, depuis quelques jours. Et il y a pas mal de bugs sonores.
Oui, mais j'en ai eu sur PC aussi.
T'en as eu sur PC?
Mais je l'ai mis dans les moins d'ailleurs.
Et des plantages aussi, vous avez eu.
Parfois, le mec il te parle et tout d'un coup il parle plus. Quand il te dit oui, c'est bon là, t'es à 3 secondes derrière, tu vas aller
rentrer. D'aller prendre un café.
Et autour de.
Parce qu'il se rend compte que tu l'écoutes pas, donc il se lasse et il en a marre.
Non, mais.
J'en ai eu pas mal moi.
Non, mais les bugs sonores que j'ai eu sur Xbox, mais c'est d'un seul coup le son qui devient. comment dire, électrique. Non, non, hyper, oui, avec un gros écho. Et,
ça change rien, c'est un bec sonore quand même.
Voilà, dans une salle en métal, tu vois ce que j'ai dire. Et ça fait ça comme ça de temps en temps. Et moi, je joue avec. Il y a un bug super chelou sur Xbox One. Il est vraiment super chelou. Tu sais, pour brancher un casque dans ta manette, t'as un petit adaptateur sur Xbox One, donc, que j'utilise. Ça permet de faire comme sur PS4, de brancher son casque directement sur la manette et de pas réveiller les enfants qui dorment dans la chambre
d'à
côté.
Sans adaptateur.
Voilà. Et bah, quand tu utilises ça sur Xbox One, et bah, le son se coupe à chaque fois que tu freines. Totalement.
D'accord.
C'est-à-dire que ça fait. T'appuies sur le frein, plus rien. Ouais. C'est super relou.
Ok.
Voilà, donc ça va être corrigé par un patch. T'as ça, et puis t'as quand même des grosses chutes de framerate sur PS4 comme sur Xbox.
Mais sur PC, il y en a aussi quand tu mets le mode tempête avec tout à fond.
Ouais, mais sur PC, au moins, tu peux paramétrer. Ça dépend beaucoup de ta config. Si t'as une config de la NASA, ça ira.
Comme chez Poufy, ouais, effectivement.
Voilà.
Effectivement.
Si tu fais comme Poufy, que tu mets des cartes machin truc en avec SLI.
42 écrans.
4K. Voilà,
oui, mais il a deux GTX 980, voilà, il a raison, il a le droit de se faire plaisir.
Poufy, t'as eu aucun plantage, aucun ramage, t'as rien eu toi?
Non, visiblement.
Aucun plumage.
Non, mais lui, Poufy, il a pas de soucis avec
il
son
rien
PC.
Du tout.
Je pense qu'il confirme. Il peut tout faire avec son PC.
Tu m'étonnes.
Ouais. En tout cas, Project Cars,
franchement,
fortement
très, très bonne surprise. Parce que moi, je m'attendais à un petit flop en disant ouais, c'est très très beau, mais à mon avis, ça va être pénible à jouer. Et bah, je suis bien content d'avoir attendu la sortie du jeu pour.
D'accord. Tu vas te prendre sur PC ou pas?
Bah, il faudrait que j'ai un PC déjà.
Ah oui.
Bon, enfin, mais franchement, PC. Oui, ce jeu-là me donne carrément envie d'avoir un PC. Hein. Mais vraiment. Hein.
Avec un volant et tout, tu serais peinard chez toi.
Oui, je suis pas trop volant, mais.
Bon, on a testé le jeu quand même avec le Thrustmaster.
Je suis pas trop volant, mais.
Comment il s'appelle? GT300, je crois, ou un truc comme
GT300,
ça.
Non,
c'est GT,
je crois que
c'est pas GT. TS.
Ah oui,
TC, TS, je sais plus.
Master,
le 300, quoi.
Ouais.
Le Thrustmaster.
Le
volant. Voilà, le volant qui est compatible et PlayStation 4 et PC. Et pas Xbox One.
Ah, c'est nul.
Ouais, bah, ils font la guerre à ce niveau-là aussi.
Oui,
hein. Franchement, ça tue. Après, moi, je suis beaucoup plus performant qu'une manette, donc je continue à jouer à la manette. Mais pour le kiff, une fois de temps en temps, jouer avec un volant, quand même, c'est cool. Et c'est hyper optimisé parce que, encore une fois, Project Cars, ils ont tout prévu.
Le nombre de volants compatibles.
C'est compatible à absolument tous les volants du marché.
Quoi, voilà.
Et tu peux entièrement paramétrer, évidemment, la sensibilité, le retour de force, etc.
Non, mais vraiment, ce jeu-là, ils l'ont fait pour les fans de bagnole.
Et je trouve que, quand même, la meilleure catégorie pour moi dans le jeu, je parle en termes de sensations et de réalisme, c'est les monoplaces. Les monoplaces, elles défoncent.
Oui, bah oui,
c'est ah, ouais. Et sur les GT, je suis un peu plus réservé.
Ouais. Ouais. Non, moi, j'aime tout. J'ai jamais été déçu par une seule caisse. Même les Caterham qui sont avec les gros phares avant, là, j'ai aimé conduire.
Et
avec
les super cartes. Tu sais, t'as les cartes et t'as les super cartes.
C'est bien, c'est bien.
Ils vont à une vitesse de malade.
Voilà, c'est super vomirait. Donc,
les super cartes, non. Parce que c'est un peu comme des petites voitures. Donc,
c'est presque. Ça devient plus une monoplace, une grosse monoplace.
Donc, ça fait une semaine que c'est sorti sur PC, sur PS4, Xbox One. Vous le conseillez fortement. Le test est toujours disponible évidemment sur Gameblog à lire.
Exactement.
C'est du 4,5 indispensable et c'est pas volé. Oh. Contrairement à l'Orange du Marchand. Julo, tu veux rajouter un truc?
Ouais, juste une dernière petite. En conclusion, en fait.
On conclut ça.
Ça va être quand même très intéressant. J'adorerais être une petite souris dans les locaux de,
Polyphonie
Digital et de Turn 10. Parce
qu'est-ce
que
qu'ils vont faire?
On nous rabâche les oreilles depuis des générations et des générations. Ah oui, mais non, mais la pluie, on peut pas le faire si le jeu. On veut garder cette qualité graphique et puis ça, on sera obligé de baisser l'IA, etc. Ouais, mais Drive Club, c'est un jeu d'arcade à côté de Project Cars, vraiment. Et là, c'est une simulation avec une batterie de circuit super bien fait, etc. Et tu mets la tempête, quoi. Tu mets la tempête, tu choisis l'heure de la journée, soleil couchant, tu fais ce que tu veux sur absolument tous les circuits. Là où les autres nous disent depuis des années et des années, ah oui, mais non, on peut pas parce que voilà, vous comprenez, c'est compliqué. Le moteur nous permettrait pas de faire des courses de nuit, etc. Mon cul, ouais, tu vas voir un peu là, ils vont se sortir les doigts.
C'est un peu le genre de discours, ah oui, non, mais vous savez, 60 images par seconde, c'est un peu trop cinématographique.
Attention, mais. Et là, on parle de PS4, Xbox One. Donc, les gens n'ont pas encore lancé le truc.
Je suis très très impatient.
Peut-être qu'on aura de belles surprises.
Très impatient de voir Forza 6. Hein, parce que mine de rien, Forza 6, on va le découvrir à l'E3.
Et GT 7.
Et il va sortir a priori donc, cette fin d'année.
Et GT 7 aussi, non? On ne devrait pas en parler.
Oui,
il n'a même pas
sûr.
Été annoncé GT 7.
Ah non, pas du tout.
Non, pas annoncé.
Enfin,
mais
Kazunori,
il
y a GT 6. Ils ont dit qu'ils bossaient dessus quand même. Mais bon, c'est pas officiellement annoncé avec des images.
Ils vont mettre un petit coup de pied.
Ouais, c'est très bien.
Au moins, non, mais là, ils ont plus le choix. C'est-à-dire que maintenant, s'ils sortent Forza 6 et Gran Turismo 7 sans effet météo, sans course de nuit et sans optimisation.
Sans dégâts.
Non, mais. Et puis il y a les dégâts.
Ah, bah, oui, les dégâts, oui, c'est vrai, bon, qu'on en a pas parlé. Mais...
Ouais, ils sont gentils dans Project Cars quand même.
Non, mais ça va.
Tu démolis pas ta bagnole en moins de
deux. Ta voiture, elle s'arrête jamais.
Non, il faut vraiment foncer dans le tas comme un porc pour vraiment qu'elle soit complètement détruite.
Mais moi, ça m'a rappelé.
Mettre les dégâts moteurs et tout. Moi, j'ai déjà eu des pannes moteurs.
Tu te rappelles les sensations géniales qu'on avait sur Toka? Moi, je trouve qu'on retrouve un peu ça dans Project Cars. Parce qu'on atteint un niveau de réalisme intéressant et en même temps.
Puis les bruitages intérieurs.
Il faut super faire gaffe aux collisions avec les autres bagnoles parce que ça te met vraiment dans le décor. Quand tu roules sur la pelouse ou les graviers à côté, ça te ralentit mais sévère.
Ah, tes pneus sur tout ça.
Voilà.
Si tu prends une petite glissière aussi, moi je t'ai vu jamais encore. Glissière, ouais. Si tu la prends mal,
donc en fait il y a le côté intransigeant qui avait dans Toka qui est super agréable, y compris avec des niveaux de difficulté, donc toutes les aides activées, etc., qui rendent ce jeu vraiment intéressant d'une part et super kiffant à jouer, quoi.
Très bien.
Vivement, vivement la suite du côté de chez Forza et Gran Turismo.
Vivement la fin des temps.
Vivement le reste côté jeu de voiture. Messieurs, vous savez, une fois qu'on a passé les thèmes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le hors-jeu. Et on va commencer avec toi, Julo. Parce que tu as découvert une série que j'ai recommandé chaudement il y a bien longtemps. Et que,
bon, il y a bien longtemps, c'est pas une vieille série. Là. Arrêtez de me faire le quoi.
C'est old. Je t'ai holdé, comme on dit dans le jargon. Il s'agit de True Detective.
Putain, spoiler pas, il faut que je la regarde.
Non, mais je vais pas la spoiler.
Série avec Matthew.
Loin de moi l'idée.
McConaughey et. Ça y est,
Woody Harrelson.
Woody Harrelson. Alors, et Michelle Monaghan aussi.
C'est la femme de Woody Harrelson.
Génies, on les voit à l'antenne.
Alors, franchement, cette série, il faut absolument la voir. C'est génial. C'est une enquête qui dure. C'est 8 ou 10 épisodes, je sais plus.
C'est 8 épisodes.
Voilà, moi j'en suis au 6ème.
Par saison, c'est ça?
Enfin, ils n'ont qu'une saison
hein, pour l'instant.
À ce stade, je peux dire qu'en plus, il y a une variété géniale qui fait que dans le quatrième épisode, moi j'étais scotché à mon siège, il y avait une tension.
C'est pas 8, si?
Non, sixième, j'en suis, c'est pas la fin.
Ah, ouais, d'accord.
Ah, ou alors ça se finit sur que dalle, mais je pense pas.
Non.
Donc c'est une enquête policière qui se situe merde.
En Louisiane.
En Louisiane. Merci.
C'est
beaucoup.
Vrai. Ouais. Non, merde, j'ai dit au pif.
C'est vrai.
Je te jure que j'ai dit au pif.
Ouais, donc c'est en Louisiane.
Non, mais, vu les images, ça correspond. Ça,
quoi,
bien,
une région parfaitement désolée, quoi. On a vraiment pas envie d'y vivre.
Le Bayou.
Voilà, c'est ça. Le Bayou.
François Bayou.
Un meurtre terrible qui est découvert au départ, donc par la police. Premier épisode et ça va être toute l'histoire de cette enquête avec ces deux policiers qui font équipe et qui sont très différents l'un de l'autre. Tu sens qu'ils ont
un peu... blanc.
Non, voilà, ils ont du
ils
mal.
Ils font des blagues.
Ils ont du mal à accrocher.
L'autre c'est Nick Nolte.
Donc en fait, ce qui est génial, c'est dans la narration, en fait, tout est raconté a posteriori. En fait, on retrouve ces deux flics qui racontent leur enquête à d'autres flics. 25 ans après. Ouais. Voilà.
Mais qui a tué Laura Palmer alors?
Voilà, et donc il raconte toute l'histoire comme ça, avec les différents personnages que tu vois interrogés par ces flics, et donc une espèce de flashback permanent, en fait, monté de manière intéressante. Ce qui est génial, c'est l'ambiance.
Il y a des quakers,
les personnages. Donc ces deux flics, il y a un de ces deux flics, c'est un vrai petit génie, mais le mec, c'est un sociopathe, quoi.
Ah, bien.
Et l'autre gars, c'est plus un beauf. Mais qui va plus aller de l'avant, un peu bourrin, etc., qui trompe sa femme,
mais qui est pas un mauvais gars
et qui est pas un mauvais type dans le fond, mais qui est parfaitement finalement incompatible, mais qui ne serait pas incompatible avec le personnage joué par Matthew McConaughey qui est extraordinaire. Mais alors franchement, cet acteur,
mais il est tellement bon, ce mec.
Ah, mais vraiment excellent.
C'est un génie.
Voilà, donc je vais pas vous en dire plus sur l'histoire.
Si, juste un truc, c'est diffusé sur quoi? Sur Canal+, c'est ça?
Ah oui, voilà. Alors
Canal 7,
il y a deux moyens de le voir actuellement en France. C'est Canal+, et donc ça passe en VOD aussi quand t'as Canal+ à la demande, etc. Ouais. Ou c'est sorti en Blu-ray, DVD.
En Blu-ray,
voilà.
Absolument.
Donc
si
vous aimez les enquêtes, les séries policières, et puis surtout, enfin. Si vous avez envie de voir des séries différentes, parce qu'il y a vraiment une ambiance qui est complètement différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici, ça vaut le coup. Voilà.
Et la deuxième saison, on peut penser à David Lynch. Ça, c'est quoi sa série déjà?
De quoi?
David Lynch, non?
Ah,
Twin Peaks.
Non,
le début, non.
Non, c'est pas. C'est pas.
J'aime pas, moi, Twin Peaks.
C'est pas surréaliste.
D'accord,
non, c'est très. C'est très terre à terre. Il y a la deuxième saison qui va arriver là.
Ouais, et d'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est que comme cette série dont je vous avais parlé il y a quelques podcasts aussi, American Horror Story, qui est une série géniale aussi, les scénarios changent à chaque saison et les personnages aussi. Hein. C'est-à-dire que dans la saison 2, on retrouvera. Non, c'est fin de la saison 1, c'est la fin de l'histoire. Et tu passeras à une autre histoire avec la saison 2. Et ça, je trouve, c'est vraiment un format qui devrait se multiplier dans les séries. Parce
qu'on perd souvent le fil et après on se lasse.
Tu perds le fil et puis surtout, tant que la série série marche, t'as l'impression que les producteurs veulent continuer à faire du filler, ouais, du filler, vrai. Du filler, et que finalement le récit est complètement délayé et puis parfois hyper décevant du coup sur la longueur. Donc vraiment, je trouve que c'est assez génial parce que les trucs sont écrits à l'avance et ça se sent. Finalement, c'est comme un film qui durerait 10 heures, quoi. Mmh. Voilà. Donc tu t'attaches au personnage, tu le regardes épisode par épisode, ouais, c'est vraiment super.
Et donc saison 2 qui va arriver très bientôt, je crois, aux États-Unis avec Colin Farrell notamment, Vince Vaughn, Taylor Kitsch et surtout Kelly Reilly.
Ah, je crois qu'elle va dire Katy Perry.
Bisous. Voilà, en tout cas True Detective, c'est pareil, hein, je vais pas vous mentir, je crois qu'on en avait déjà parlé il y a quelques mois, c'est juste une bombe.
C'est une tuerie.
Absolue. Romain.
Oui.
Romain, toi, toi c'est quelque chose d'encore plus adulte hein, que tu es allé voir à
Lady
Bruxelles.
Gaga.
À savoir le musée Hergé.
En fait, c'est pas vraiment
Bruxelles. C'est mon rêve, c'est moi qui suis un fan.
Je voudrais pas ne pas me faire mal voir par nos amis belges.
Non, avant le mois, parce que j'ai envie
de c'est une trentaine de kilomètres de Bruxelles.
De Bruxelles.
Et c'est en fait, c'est comme son nom l'indique, un musée consacré à Hergé.
Mm-hmm. C'est le papa de Tintin.
J'essaye de voir si
et de Cluck et Fluck.
J'ai pas l'impression que c'est ce que nous montre. Ah si, c'est ça, voilà.
Voilà.
C'est ça le musée Hergé. Et donc oui, ça revient sur la vie de l'auteur. Ça revient beaucoup sur Tintin, ses personnages, etc. Et il y a énormément de planches originales. Et tu vois le
1 milliard d'euros.
Tu vois le, ouais, certaines doivent avoir une, genre les planches de l'Alphard,
Tintin et l'Alphard
qui sont affichées là-dedans. Ça revient aussi sur les inspirations d'Hergé, aussi bien en matière de science.
D'architecture, pardon.
D'architecture, ça, oui, aussi fan, de. Comment dire, les gens qui l'ont influencé. Par exemple, moi, ce que je ne savais pas, c'est que Chang.
C'est
basé sur une vraie personne qui est un ami d'Hergé qui l'a énormément influencé. Tu apprends aussi l'histoire du petit 20e, enfin le journal du petit 20e, le supplément consacré à Tintin qui était intégré au journal le 20e. Et il y a plein de salles, plein de planches. Moi, la seule chose que j'aurais bien aimé voir dans le musée Hergé, en fait, c'est une pièce consacrée au merchandising. Mmh. Tu sais, parce qu'il y a énormément de produits qui ont été faits sur Tintin. J'aurais bien aimé connaître l'avis d'Hergé vis-à-vis de ça, comment il a géré, l'explosion en popularité de Tintin au fil du temps, etc. Parce qu'ils évoquent un peu son souhait de ne pas voir la série continuer après son décès. Mmh. Il y a un guide audio gratuit qui t'accompagne pendant toute ta visite, donc tu l'entends, t'entends des commentaires d'Hergé, des extraits d'interviews, des documents d'archives, etc. Donc c'est très intéressant. J'aurais juste bien aimé voir ça, comment il a géré la marque Tintin, etc. Mais sinon tu vois ses premières inspirations,
ses débuts. Je pense qu'il l'aurait vendu à Disney,
s'il avait vu. Ses débuts,
je sais pas. Avec le Tintin Ranch.
Le fameux Tintin Ranch. Ouais. Non, les influences, enfin l'influence que le scoutisme a eu sur lui, par exemple, les animaux, les différents personnages, le cinéma aussi. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits avec le cinéma, l'évolution aussi de la manière de réfléchir de Hergé. Par exemple, les premiers Tintins, c'était très très manichéen,
politique,
avec aussi une vision du monde qui était très très européenne, par exemple. Il n'avait pas encore beaucoup voyagé, il n'avait pas forcément fait de rencontres hors de sa zone, on va dire. Et il te montre cette évolution au fur et à mesure dans les albums de Tintin, son ouverture sur le monde, finalement.
À part le Congo, il n'avait pas voyagé.
Non, mais tu vois, par exemple, il en parle lui-même certains de ses regrets vis-à-vis de l'album de Tintin au Congo qui représentait les Africains d'une manière plutôt
caricaturale.
Caricaturale.
Missier Tintin.
Et très simpliste.
Mais il s'en prend encore aujourd'hui plein la gueule. Souvent, tu parles en société de Hergé.
Oui, il est vu comme un facho.
Voilà.
On parle de quelque chose qui a quasiment un siècle.
C'est ça. Il faut remettre dans le contexte de l'époque. Quoi,
mais même lui, je te dis.
Mais ils en parlent de ça dans le musée ou pas? De cette vision que peuvent avoir les gens aujourd'hui sur.
C'est très léger, mais je me souviens que dans une des parties de la visite, ils disent clairement que Hergé regrette sa manière de représenter les étrangers dans certains de ses albums. Et c'est lié à tout simplement une méconnaissance de ses cultures et de ses peuples. Et progressivement, ça a changé. Par exemple, dans le Lotus Bleu, quand Tintin parle avec Chang de la vision qu'ont les Européens des Chinois, il joue justement sur le mec avec sa natte, sa lombarde, ses ongles longs, les bébés que tu jettes dans la rivière, etc. Il dit voilà, tout ça, c'est une image que certains Européens, enfin occidentaux, ont de vous, alors qu'en fait c'est pas ça, etc. Donc tu sens clairement qu'il y a une une évolution de sa pensée au fur et à mesure. Et même le musée te permet de voir le travail accompli sur une bande dessinée qui est un travail titanesque, de, des premiers crayonnés au, au dessin un peu plus précis, ensuite au choix du meilleur trait, ensuite à la colorisation.
La ligne claire.
Et en plus, ils apprennent un truc.
La puissance.
J'avoue que moi, je suis pas le plus grand. J'aime beaucoup Tintin. J'ai toujours bien aimé Tintin. Mais je suis pas un grand connaisseur de BD. Et en fait, tu te rends compte que Hergé a eu une, un impact incroyable sur la bande dessinée dans son ensemble.
Bah évidemment. Oui.
Le genre, par exemple, les onomatopées, les bulles.
Bien sûr. Mmh.
Les bulles, c'est un, c'est une c'est création, créé, ouais. C'est une création c'est d'Hergé, créé, tout simplement. Donc la BD moderne, c'est Hergé tout simplement.
Bah, c'est pour ça qu'il est considéré comme un génie des temps super modernes.
Et il y a d'autres auteurs célèbres de BD qu'on travaillait avec lui à Moulinsart, enfin sa boîte qu'il appelait Moulinsart. Il a lancé des carrières en plus. Mmh. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Si vous aimez, si la BD vous intéresse, parce que le musée de la BD qui est de Bruxelles, j'en parlais avec Julo tout à l'heure qui avait été un peu déçu. Ma copine l'avait visité aussi et quand on a été à Bruxelles, on l'a pas visité.
Mais là, pour le coup, c'est dans Bruxelles même, quoi.
C'est... Ouais, voilà, c'est
dans. Vous
n'avez
pas fait le musée du slip à Bruxelles.
Non, on n'a pas fait le musée du slip.
Tout le monde sait que c'est le musée du slip qu'il faut faire.
Bah, bien sûr,
le mannequin slip
qui est très.
On peut sauter dans son slip.
Pour le coup, si vous êtes à Bruxelles, faites les 30 km qui séparent le centre-ville
de
du musée Hergé, ça vaut le coup aussi bien pour les fans de BD que pour les fans
l'entrée
de Tintin.
L'entrée est à...
Elle est à 9,50€, je crois.
Oui, donc ça va.
Bon,
c'est trois fois moins cher que le zoo de Vincennes. Donc voilà.
On dit pas 99.
99, si, bien sûr.
Oui,
bien
oui,
sûr,
oui 70 et 90.
Oui, il y a plein de trucs. Hein,
un truc comme ça bizarre.
En même temps, c'est mille fois plus logique que...
Moi je sais pas, les maillots ils aiment bien dire les vareuses quand tu shootes sur le quand tu shootes au foot parce que c'est j'ai eu beaucoup de Belges que j'ai rencontrés dans les tournois PES quand tu shootes sur le sur la barre transversale il a shooté la latte
oui bah quand t'es pas dans un embouteillage t'es dans une file
ah oui c'est vrai aussi ouais et surtout les publicités de la sécurité routière rouler trop vite, c'est plus éril, et voilà. Ça, c'était... ça nous aura marqué avec Gélo. J'ai jamais pris en photo. Et je suis un peu.
Je l'ai prise en photo.
Toi, tu l'as prise ?
Bien sûr.
Il est fait un poster, regarde.
Il faut que tu la retrouves, absolument.
Ouais, ouais.
Ah, parce que cette pub, elle est
quand
incroyable.
Quand tu la compares à nos campagnes, à nous, de
super
sécurité routière.
Ah, ouais, parce que là...
C'est une violence intersidérale.
Ah, oui,
c'est plus éril.
C'est un truc que j'ai noté. Ils sont dans les panneaux d'indication, les notices, etc. Ils sont très polis.
Ah oui, non, mais c'est.
Ralentissez,
c'est...
s'il vous plaît.
Non, c'est mesuré, tu sais, le truc que t'accroches à la porte.
Attends, je suis parti ailleurs, là.
Le truc que t'accroches à ta chambre d'hôtel pour dire que tu veux pas ne pas déranger, ouais. Machin. Là, c'est marqué un peu de sérénité, s'il vous plaît.
mais c'est génial, il y a une ambiance, de toute façon, en Belgique. Ouais.
Sinon, les frites, elles sont bonnes
ou pas ? Ah putain,
les frites.
Moi, quand j'y suis allé, j'ai fait moule frites tous les jours.
Mais normal. Juste une dernière chose normal, sur le sujet du menu.
Ouais,
vous parlez du musée Tintin. Un autre truc que j'aurais bien aimé, c'est plus évoquer le Tintin à l'étranger. Parce qu'à la toute fin du musée, tu as une sorte de pièce, une mini pièce dans laquelle tu rentres qui est recouverte de couvertures de Tintin dans, les différentes, dans les différentes langues. Et j'aurais bien aimé voir
on
apprend
plus
sur les réactions des publics étrangers à Tintin, etc.
Et d'ailleurs, Tintin s'est traduit aussi dans un tas de dialectes.
Oui,
pas seulement des langues,
dans les langues régionales, etc. Bah, ouais, j'ai acheté deux albums.
Secret
de Tintin
en ch'ti, c'est ça
en tibétain, en fait, parce que le ch'ti, ça n'existe pas
en alsacien aussi.
C'est du picard.
Ah, tu sais qu'il y a Tintin en alsacien aussi.
En québécois. J'ai vu
en turc, tu l'as pas acheté, non?
Non, j'ai acheté El Secret de Rakam El Rouge.
Bon, en tout cas, c'est à 30 bornes de Bruxelles et
c'est
ça
bien.
Vaut le coup si vous êtes fan de Tintin et Milou
de BD.
Et du Capitaine Haddock. Traz, vous pouvez faire des bruits bizarres. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu toi
des
Simpsons puisqu'il y a une nouvelle qui t'a fait plaisir cette semaine, c'est le fait que les Simpsons sont renouvelés pour deux saisons supplémentaires.
Deux nouvelles saisons, 2015-2016. Hein. On croyait que ça allait être la fin. Tiens, d'ailleurs, Homer, il fait tiep là.
Ouais.
On croyait que ça allait être la fin des haricots.
Il fait jamais tiep.
Mais heureusement, la Fox a renouvelé le contrat pour deux nouvelles saisons. Donc on ira jusqu'en 2017.
Ce sera la 28e saison.
28e saison.
28e saison.
Ouais, un record pour.
C'est-à-dire que techniquement, Bart, il devrait avoir 35 ans, quoi.
Ouais, exactement.
Bah oui, c'est marrant qu'il
y avait tous les âges dans la série, de toute façon. Donc c'est
mais
pas
t'avais des épisodes des Simpsons où ils imaginaient le futur, genre Lisa, présidente des États-Unis, et tu vois son frère adulte qui est resté adolescent dans sa tête.
Ils sont géniaux, ces épisodes.
Même s'ils avaient fait évoluer les personnages, bah là, ça se trouve,
Homer et Mart. Ils ont pas tué Snowball. Dans les Simpsons
ils ont déjà tué leurs animaux de compagnie.
Ils ont eu plein de chiens différents.
Santa's Little Helper
3 ou 4
numéro 2
plus, hein, ouais.
Voilà. Bon, en tout cas, deux
donc, ça sera le 625e épisode en 2017. Oh là
là. J'espère qu'ils tiendront jusqu'à la 30e. Ce serait
et qu'ils s'arrêteront sur
moi, la. Non, les... pas forcément, mais au moins jusqu'à la 30e.
Moi, j'attends le 666e épisode. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais j'espère qu'ils feront un truc bien.
T'imagines si c'est l'épisode d'Halloween de cette année-là.
Ça serait incroyable, ça. Ouais.
Et peut-être qu'ils vont se caler. House of Horror numéro.
Donc, ça fonctionne toujours aux États-Unis. Il y a à peu près 7 millions de téléspectateurs. Bon, c'est moins que les 15 qu'ils faisaient avant régulièrement. Donc ça a quand même diminué, mais ils continuent à 7 millions, 8 millions.
S'ils continuent 7 millions, c'est un beau chiffre déjà.
Selon les épisodes, oui, parce que tout s'est divisé avec plein de choses, Netflix et compagnie, voilà, les gens regardent d'autres choses tout le temps.
Avant qu'on passe à la suite, t'as réussi donc, à avoir le Quickie Mart en Lego ou pas encore?
Non, j'ai que la maison pour l'instant. On m'a pas encore offert le Quickie Mart, mais j'aimerais bien l'avoir.
Ah, tu veux qu'on te l'offre?
Bah oui, tant qu'à faire, vu le prix, oui, je préfère.
Ah ouais, comme
c'est ça, Quickie Mart. Je crois que c'est 200 euros comme la barre.
Oh la vache. Ah oui, ok, d'accord.
Par contre, t'as vu, ils ont confirmé qu'il y aurait bien un pack de niveau Simpsons dans Lego Dimensions.
Ah oui,
t'auras une petite figurine Homer avec sa petite voiture rose.
Ouais, fait,
et tu pourras aussi, si tu le veux, acheter Bart, Bart et d'autres personnes.
Lego Dimensions direct chez moi. Hein.
On va en parler.
Moi, Lego Dimensions avec les Simpsons et Retour vers le futur.
Sans problème.
Shut up and take my money.
Bon, bah tiens, shut up. Voilà, j'avais envie de le placer. Un petit taisez-vous. Parce qu'on va passer maintenant, Julo, au point concours. En fait, il n'y a pas grand-chose dans cette semaine, puisqu'il y a toujours le même. Mais j'avais envie de mettre la musique.
En même temps, on a eu des gros concours ces dernières semaines. Donc, on ne va pas se plaindre. Il y a des PS4 qui ont été gagnés.
On devrait en mettre un. Là, j'en profite, parce que c'est vrai qu'on a oublié. Mais on devrait en mettre un en place dans pas très très longtemps concernant un jeu avec un personnage qui a des yeux un peu
comme le
chat et des cheveux tout blancs. Et qu'il y a peut-être un poster à faire gagner. on va en parler dans pas très longtemps.
Personne n'a compris, là.
C'est vrai
bien, ouais.
Les yeux chats, les cheveux tout blancs.
Dans tous les cas, en ce moment, concours permanent, c'est toujours le cas avec notre ami Joe Vidéo, Joe Hume, plus exactement.
De Wii FM.
Voilà, de Wii FM qui vous fait une chronique, deux chroniques même, toutes les semaines. Joe Vidéo, donc à suivre sur Gameblog deux fois par semaine et chaque semaine, donc un concours, des petites questions assez simples qui vous permettent d'être tiré au sort et de gagner un an de premium. Voilà.
Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal.
Mais
il faut
faire
en discuter du concours de... Bref. Maintenant que nous arrivons sur la fin
de
ce podcast, il est temps
d'appeler
Julien Lepers pour invoquer le perso quiz de fin de podcast.
De fin de bouffe.
Vous connaissez les règles, messieurs. C'est d'abord le pseudo, ensuite la réponse. Et cette semaine, le quiz portera, puisqu'on a parlé de Yooka-Laylee tout à l'heure, eh bien, ça va être sur
Rare.
Eh oui, bravo, oh là là. Tu méritais presque un point, mais tu ne l'auras pas.
Non, il n'a pas dit son prénom.
Vous êtes prêts?
Ouais.
Alors, c'est parti. Question numéro 1. Quel était le nom d'origine de Star Fox Adventures?
Je ne sais plus. Star Fox DX.
Perdu.
C'est pas ça? C'est moi, j'aurais dit ça aussi.
Ah, vous voyez pas? J'ai peut-être mal formulé la question.
J'avoue que là.
Alors écoutez,
Star Fox Adventure, c'est celui qui est sorti sur GameCube, c'est ça?
Exactement. Ouais, oui. Le très bon jeu.
Qui est très très bon d'ailleurs, excellentissime.
Du coup, je lance la petite musique, vous m'en voudrez pas.
C'était quoi alors?
Ah, je suis déçu.
Ouais, tu vas le dire, on va certainement faire. Ah, putain.
Moi j'ai un autre truc qui me vient en tête, mais c'est l'autre nom de la version 64, je crois. Moi je pensais à Lilat Wars, mais Lilat Wars c'était
autre chose. C'est pas ça, c'était Dinosaur Planet en fait.
Ah
vous
oui,
ah mais putain,
oui,
mais oui, t'as raison.
Oui, ça devait être Dinosaur Planet à la base, mais bon, du coup,
ils en ont fait un Star Fox.
Exactement, Miyamoto a insisté pour que ça devienne un Star Fox. Il a eu raison. Question numéro 2. Comment s'appelle, je vous regarde tous en même temps, suspense, l'héroïne de Perfect Dark?
Julo. Johanna Dark.
C'est une bonne réponse, Julo. Un point.
One point.
Question numéro 3. Si je vous dis vue isométrique, NES, voiture télécommandée, 1987.
Ah, Traz.
Oui.
Micro machine.
Mais non.
Ah,
Ah non, NES, pardon, j'ai pas entendu.
Eh oui, eh oui.
Vue isométrique sur NES.
1987, vous pensez.
Ah, 87, je comprends 96.
Attends, tu répètes tous les trucs. Vue isométrique 87.
Si je vous dis vue isométrique, NES, voiture télécommandée, 1987, vous pensez.
Putain, mais oui.
Oh, j'attends qu'on puisse remettre la petite musique, hein.
Moi j'en ai aucune idée donc.
Ah, c'est dingue!
Ça me reviendra peut-être après. J'ai jamais dû jouer à ce jeu là, c'est sûr.
Oh, si, on y a tous joué. Alors là, je vais te dire, on y a tous joué.
C'était
une influence.
Non, j'ai pas de NES donc.
C'est une influence pour les jeux de caisse conviviaux que tu ne peux pas avoir loupé.
Traz, RC quelque chose?
Trace, tu y avais déjà répondu de toute façon, donc tu ne peux pas.
Ah,
mais effectivement,
j'ai pas le droit de donner.
Non, pas deux fois. Et c'était RC Pro-Am.
Ah putain, voilà, j'avais gagné.
Eh oui, RC Pro-Am, les mecs. Putain, vous me décevez.
Ah, j'y ai jamais joué.
Je suis dégoûté. RC Pro-Am.
Mais oui, je suis dégoûté.
Ouais.
C'est ça qui m'est revenu, mais.
Vous êtes profondément décevant.
Effectivement.
Question numéro 4. Quelle licence a été créée pour rivaliser avec les Tortues Ninja?
Romain.
Oui.
Battletoads.
Ouais, ça me saoule ça.
Bien vu Romain.
Je te savais, I knew it.
Un point pour Julo, un point pour Romain. J'espère que vous serez moins décevant sur la.
Ouais, j'ai quand même trouvé la moitié des RC. Hein.
Question numéro 5. Question qui me tient à cœur, je vous le dis tout de suite.
C'est vrai.
Des gros souvenirs pour moi.
Ah, il y a des Katy Perry dedans.
Quel est le nom du personnage jouable de GoldenEye 007 que tout le monde voulait prendre en multi parce qu'il était plus petit et donc plus difficile à viser?
Oh.
Non, ça je sais pas, j'avoue là.
En tout cas, c'est pas Jaws.
Non. Non, c'est pas Jaws, je confirme.
Sais, je sais pas du tout.
Les gars,
je vais te décevoir là.
Vous avez tous joué à GoldenEye.
Je sais pas.
Ouais, bah ouais, à fond.
Il y avait un perso qui était plus petit. Et bah quand on le prenait, et bah les gens ils arrivaient, merde, j'ai visé au-dessus. Et puis tu te faisais buter.
Le nom là, ça me dit absolument rien.
Alors, du tout. Là vous me décevez.
C'est un perso.
Je suis nul au quiz de toute façon.
Alors je vous donne un indice, c'est pas Baron Samedi qui lui était plus grand.
Putain.
Je sais pas.
C'est trop dur là.
Je connais pas.
Avec son costume.
Non.
Oh là là, on va finir sur l'égalité, c'est affreux. C'était Hot Job. Donc oui, c'est bien l'asiatique avec son chapeau melon qu'il envoie et tout. Et
j'aurais pas
Hot Job.
Putain, je pensais que t'allais caser Grab by the Ghoulies en fait.
Non, j'avais pas envie.
Moi je m'attendais à Conker.
Ouais, moi aussi je voulais mettre du Conker, puis en fait je me suis dit non.
Moi, je pensais que
voilà,
partir.
Ça fait un partout entre Julo et Romain sur ce quiz rare sur lequel
moi,
vous été très décevant. Mais c'est pas grave, parce qu'on a passé un bon podcast quand même.
Exactement.
La Trace qui vient de ruiner vos oreilles gratuitement.
Juste avant de partir, il vous casse les oreilles.
Deux secondes d'écart.
En fait, c'est bien, c'est que là, vous avez un aperçu de ce qu'on a dans les bureaux à longueur de journée.
À peu près
des
à longueur de journée.
Des hurlements qui ne sortent
c'est
de nulle part. Comme ça.
Et encore, là, il vous a pas fait en se pinçant le nez. Oh, tu sais.
Quand t'as François Mitterrand.
Voilà, François Eltermi. Même. Donc.
Rami Boudou.
J'ai envie de conclure ce podcast en vous remerciant.
En chanson.
Avec Sébastien.
En chanson.
Et Julo, merci à vous d'avoir participé à ce podcast.
Ben merci.
On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec vous, chers auditeurs, chers public, pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Salut.